Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre.
Bienvenue au premier épisode de la 10e saison de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert. À mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin.
Allô!
Isabelle, 10 ans déjà.
Oui.
OK, on est vieux.
C'est juste qu'on montre des photos de nous autres qui comparent 10 ans passés avec nous autres à cette heure.
OK, je vais mettre ça à l'écran.
Parfait.
Catégorie libre est une production d'improvisation au Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou en diaporama sur YouTube. Catégorie libre bénéficie du financement du gouvernement du Canada. Notre invité aujourd'hui est Stéphane Bourgoin.
En 1985, Stéphane Bourgoin devient cofondateur de la Ligue d'improvisation du Centre universitaire Saint-Louis-Maillet à Edmundston et participe aux Coupes universitaires de 1988 à 1990 à titre d'arbitre en chef, soit pour le CUSLM, soit pour la LICUM, puis comme juge de salle jusqu'à 1994. Il sert aussi d'arbitre à plusieurs des premières gougounes dorées. Puis, long intérim dans lequel il se donne surtout au théâtre communautaire, ce qui deviendrait portant à une discussion, et comme joueur avec la machine du Madawaska, ancêtre de la Ligue d'improvisation du Madawaska et alentours, la Lima, comme par exemple au tournoi Richard Terrien. En 2019, Stéphane se réintègre vraiment au réseau en servant de juge aux Jeux régionaux Madawaska Victoria en vue des Jeux de l'Acadie, fait partie de la Lima et se joint aux vieilles ploys pour jouer aux Zèbres d'or en 2023 où il remporte le prix de personnalité la plus sympathique. L'année suivante, son équipe remporte le Zèbre. Puis récemment, il est nominé dans la catégorie découverte de l'année au gala d'improvisation Les Éphémères, ironique pour une personne qui était présente au tout début du jeu au Nouveau Brunswick. Stéphane, bienvenue à l'émission.
Merci Isabelle, merci Michel, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, ça me fait un grand bonheur partager mon parcours, qu'est-ce que j'ai vécu là-dedans, les hauts, les bas. J'en ai long à dire, mais j'ai hâte de voir vos questions aussi.
Merci d'être ici. On parlera avec Stéphane de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission du lien entre l'impro et le théâtre communautaire.
Plusieurs membres de la communauté ont justement suggéré des questions sur le parcours de notre invité et sur le sujet qu'il a choisi. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Fait qu'on pourra répondre à ces questions-là que tu mentionnes, Stéphane.
Déjà, ce qui me fait rire beaucoup parmi ces questions-là, c'est que Danny Labrie, qui est un de tes collègues à la Lima maintenant, Danny n'écoute absolument pas l'émission parce qu'il pose la question « Comment t'as connu l'impro dans ton jeune temps? » qui est effectivement la première question que nous, on pose à chaque invité. Donc, Danny, t'étais sûr de la faire demander celle-là. Justement, toi, Stéphane, t'es dans vraiment les débuts à Edmundston. Fait comment ça commence tout ça?
On sait que, bon, l'impro au niveau national, qu'est-ce qui a été monté en 1977, le théâtre expérimental, ça bougeait un petit peu dans le côté du Québec, mais on voyait pas ça ici beaucoup. Puis, en 1985, ben, il y a eu un tournoi international de la Ligue, puis les autres, comme ils ont comme fait pas mal la carte en 85, puis moi, j'étais rendu à l'université en 85. Je commençais à l'université, je connaissais pas ça du tout, mais il y avait plein de monde qui se regroupait devant une télévision. On avait une télévision commune, parce que c'était pas populaire d'avoir des télévisions dans des chambres. Puis on se regroupait devant une télévision, c'est ça qu'ils jouaient. On regardait, puis c'était comme, wow, ils n'ont pas de texte, ils n'ont pas rien. Puis ils inventent des histoires extrêmement extraordinaires. Puis là, on s'est dit, hey, ça serait intéressant qu'on se fasse une ligue. Puis c'est ça, Marc Le Boutillier me propose l'idée. Puis je dis, ouais, mais on sait pas comment ça fonctionne. On n'a pas de règlement. On n'a rien du tout. Mais évidemment, on a su que à Moncton, il y avait une ligue déjà en marche. Puis on est allé chercher des papiers, des documents de la ligue, puis tout le règlement au complet pour savoir comment il fonctionnait. Alors, on s'est basé sur toutes ces documentations-là pour se donner une idée sur les règles de base, le conseil d'administration, qu'est-ce qui bougeait autour de ça. Puis, on a dit, bon, on fait une publicité dans l'université pour voir si on va trouver deux ou trois joueurs qui vont vouloir embarquer avec nous autres. On place des pancartes partout, on fait les pancartes à la main. Puis, du jour au lendemain, on se rend compte qu'on a 5 équipes de formées. Avec 5 équipes qui étaient très surprenantes. Tout le monde voulait jouer. Tout le monde aimait ça, l'idée de s'embarquer sur scène, puis d'inventer n'importe quoi, de créer, puis d'une atmosphère. où ce que tu peux vraiment aller où ce que tu veux avec tes idées.
Pour la population universitaire du CUSLM, qui est aujourd'hui l'UMCE, c'est quand même un pourcentage important qui a voulu se joindre à la Ligue à
Oui.
ce moment-là. Est-ce que tu as conscience ou souvenir que Marc, parce que Marc vient de la péninsule originalement, n'est-ce pas? Que Marc avait vu de l'impro là, parce que la Ligue d'improvisation de la péninsule acadienne existe aussi dans les mêmes temps.
Oui,
Oui, OK.
oui.
Fait que
Ben,
parce que.
probablement que lui était un petit peu plus familier avec ça que moi. Puis moi puis Marc, on s'est connus parce qu'on a rencontré une personne qui faisait du Donjon et Dragon. OK? Puis Donjon et Dragon, ben, c'était jouer des personnages inventés. On voulait absolument être quelqu'un d'autre que nous-mêmes, sortir du code de la vie de tous les jours, décrocher complètement, puis de jouer des personnages. Puis ça, c'était le premier personnage que j'ai joué, c'est Donjon et Dragon avec Marc Leboutillier et d'autres joueurs. Puis, moi puis Marc Leboutillier, on était un petit peu flyés. Avant même de sortir avec l'idée de faire une ligue d'improvisation, on avait la guerre au fusil à l'eau. On est allé sur un ordinateur, on a mis plein de noms de joueurs qui voulaient embarquer. On a fait sortir aléatoirement sur des papiers Dot Matrix, une liste de noms de qui allait attaquer qui, puis dans quel ordre. Puis, bon, en tout cas, on t'inventait toutes sortes de choses. Avec l'impro, ben, quand on a commencé à jouer, on s'est rendu compte, on regardait la télévision, puis il était pas mal bon, mais nous autres, on était comme pas mal moins bon. Puis, on s'est dit, ben, on a besoin de les. Puis, on savait que, ben, à Moncton, il y avait le groupe, l'université avait l'impro-là. Bon, on a fait appel à l'université, puis Ghislain Taschereau, d'aujourd'hui les Bleus Poudres, lui, s'est engagé à venir nous présenter des choses. Puis tout de suite, lui, dans notre présentation, on était au cinquième étage de l'Université de Moncton, puis dans la présentation, il voit tout de suite que notre non-verbal, c'est comme pourri, là. C'est mauvais, notre non-verbal, OK? Il dit, Stéphane, plante-toi sur le bord de la bande, puis fais semblant que tu es sur une falaise. Moi, je prends pas sur le bord de la bande, puis il me regarde, puis non, 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 ça marche pas. Là, il regarde, on est au cinquième étage de l'Université, il regarde, il voit une fenêtre, puis il s'avance à la fenêtre, puis il la rouvre. Ah, elle est pas barrée. Fait qu'il dit, OK, tout le monde sur le toit. Qu'est-ce que tu comptes là, tout le monde? Oui, tout le monde sur le toit. Fait que là, on embarque tous sur le toit. Puis, rendu sur le toit, il dit, OK, Stéphane, tu vas aller au bord. On est au cinquième étage, tu veux, je m'en aille au bord? Il dit, oui, va aussi proche que tu peux au bord, sans tomber, là, bien sûr. Approche-toi le plus proche que tu peux sur le bord. Là, je m'approche tranquillement, puis à un moment donné, comme, ouh, on est où ici, là? Ouh, ça me tente pas d'être proche de même du bord. Là, il dit, regarde-toi, puis réfléchis à comment ton corps réagit. La lumière s'est allumée, j'ai compris que tu peux pas juste faire semblant d'avoir peur. Faut que dans ta tête, pour que ton non-verbal parle, faut que tu vives l'émotion. Faut que tu sois vraiment là, puis que tu ressentes quelque chose pour de vrai, puis le non-verbal, il va suivre. On en rentre là-dedans, mais on a continué, puis il nous a montré d'autres notions, d'autres façons d'observer des choses, l'écoute qui était aussi importante, mais c'était un moment pour moi majeur de comprendre beaucoup de choses.
C'est intéressant parce que Ghislain Taschereau, c'est quelqu'un qui, tu sais, qui était gros à la radio étudiante à Moncton. Et cet impro-là que eux autres jouaient, ils n'ont rien laissé derrière eux. C'est ce qu'on croyait, du moins. Parce que ils jouaient, quand ils ont parti de l'université, il n'y avait plus rien. Et il a fallu recommencer à zéro de là.
Puis, devine, c'est qui a recommencé ça, rendu là?
Marc Leboutillier.
Puis moi, on est arrivé en
Puis
même
toi.
temps,
OK,
on
vous
a
êtes
tout
arrivés en même
redécollé
temps.
ça,
Bon.
oui.
Mais à quelque part, parce qu'il vous a donné cet atelier-là, finalement, il a laissé quelque chose, plus que juste
Exactement.
un nom d'une
Ouais.
personne plus ou moins illustre au Québec maintenant.
Ouais.
Enfin, ça, je trouve ça super intéressant.
Un petit peu de trauma aussi, là.
Oui, petit conseil à la maison, ne faites pas ça à la maison, montez sur des toits, puis comme surtout pas des cinq étages, là. Ne faites pas ça. Alors, on s'est fait tout simplement un document avec toute notre mission et tout pour s'assurer que on suive des règles puis que ça fonctionne selon ces règles-là pour aller de l'avant avec la Lille aux morts. On voulait quand même se structurer puis avoir quelque chose de tangible pour dire, bon, OK, nous autres, on est une entité qui existe réellement. C'est ça a continué à partir de là. On était là quelques années, puis en même temps, moi, Marc Leboutillier, bon, on devait continuer nos études à Moncton. Alors, on a tout simplement recommencé ça là. Puis ça a donné que des gens de la péninsule acadienne arrivaient là aussi en même temps que nous autres. Alors, on avait quand même des joueurs super intéressants. Luc Leblanc, Robert Gauvin, Éric Butler, puis on avait Gérald Arsenault, puis Éric Thériault de l'Ensemble Vide qui se sont joints. Donc, c'était des gens qui étaient déjà à gros potentiel. Michel Ledoux aussi qui s'est embarqué là-dedans. Marc Degrasse, qui était un joueur surprenant dans la façon de livrer ses choses. Mais un coup de cœur pour un joueur qui a vraiment ressorti lorsqu'on était à Saint-Louis-Maillat, c'est Michel McSween. Michel McSween, lui, c'était un des premiers qui est arrivé au Coupe nationale d'improvisation puis qui ressortait avec des personnages, mais vraiment des personnages concrets. S'il jouait un sou, là, ben, il jouait le sous, là, puis pas à peu près, OK? Puis les autres équipes, ils n'aimaient pas le voir embarquer. Ils voulaient se débarrasser de lui, OK? Puis à un moment donné, je m'en rappelle, Michel Ledoux, il embarque, il fait une femme qui accouche, puis il décède en accouchant. Puis là, Michel McSween, il embarque sur l'aire de jeu, puis là, l'autre, il se précipite en avant pour empêcher le joueur de l'autre équipe. Puis il dit, excusez, monsieur, vous pouvez pas rentrer. Il dit, je viens voir ma femme, hein, il se posait d'accoucher. Il dit, vous comprenez pas, monsieur, votre femme, elle est expirée. Il dit, je sais, on l'a pratiqué ensemble. Respire, expire, expire, expire. Là,
oh non.
La foule, ça crie, ça cille, ça crie, là, OK? Parce que lui, il a sorti ça, là, puis il s'attendait pas. Là, l'autre dit, non, 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 excusez, monsieur, vous ne comprenez pas, votre femme a mouru. Il dit, là, êtes-vous en train de traiter ma femme de poisson, là, vous? Puis, il pouvait pas se débarrasser de Michel McSween. Un autre impro qu'il avait fait, c'était vendeur de poison. Puis, dans l'impro de vendeur de poison, ah, là, c'était incroyable. Il embarque sur l'aire de jeu, dans sa tête, à lui, on savait qu'il voulait faire le vendeur. Mais l'autre joueur s'impose tout de suite comme personnalité vendeur de poison. Fait que Michel, tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé qu'il était un enfant. Puis, en faisant l'enfant, il se met à genoux, il joue avec son chandail, il sort sa langue, il accorde le monsieur. L'autre disait, hey, viens ici. Hein? Viens ici, viens ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, y a-tu quelqu'un là dans ton entourage qui te dérange là, puis tu veux te débarrasser de cette personne-là? Ah, il dit, je sais pas. Oh oui, il y a quelqu'un là qui te dérange, là, que t'aimes pas, là. Il dit, ah, ma petite sœur. OK. Ben là, il rouvre son chandail, là, même il dit, regarde, moyen de t'en débarrasser. J'ai des poisons. Tu laisses juste une goutte de ça dans son café. Il le garde. Elle ne boit pas de café, ma petite sœur. Ben non, un enfant, ça ne boit pas de café. La foule, la scie, là. OK? Ah, il dit, OK, OK. Ben, tu mets juste une goutte de ça dans son jus d'orange ou son lait, puis ça va passer. OK. Donc là, il pogne le conteneur invisible, puis il part vous s'en aller. Là, l'autre, dit, oh, attends un peu, attends un peu. Ça coûte cher, ça. Tu peux pas, ça coûte de l'argent, tu peux pas t'en aller juste avec ça demain. Faut que tu me payes. Ah! La signe que oui. Il regarde dans sa poche, il met sa main dans sa poche, puis il sort. Une pièce de monnaie, bon, on la voit pas, mais il se vire de bord et il dit, j'ai 25 cents. Un enfant, évidemment, pas gros d'argent. Ben, il dit, ça fonctionnera pas comme ça, je peux pas te vendre cette poison-là. Il va falloir que tu me la donnes, je vais t'en donner un autre. Elle va prendre plus de temps à mourir, ta sœur, mais ça va fonctionner pareil. Tu mets quelques gouttes de ça dans son café, puis le gars, pas de café, ma sœur. Là, encore la foule, ça se scie là. L'impro était constamment comme ça. C'était incroyable de le voir aller. Un ami, Michel McSween, était mon best man à mon mariage. J'ai travaillé avec lui longtemps. Malheureusement, aujourd'hui, il est décédé. On le manque beaucoup dans le monde de l'improvisation. Tout un personnage incroyable.
Ouais, il m'a recruté à l'improvisation universitaire. Si c'était pas de lui, je suis pas sûr que j'aurais continué après mon école. Fait que, on y doit pas mal. J'ai fait ma première cuillère avec lui aussi. Puis oui. J'ai hâte de. Tantôt, on parlera parce que tu as continué à jouer de l'impro, évidemment. Fait qu'on parlera de comment le jeu diffère dans ce temps-là d'aujourd'hui, par exemple. Gardez ça pour plus tard. Mais tout de même, on voit déjà qu'aux coupes universitaires, etc., certainement, dans ces exemples-là, le monde jouait rough. Là. Ah ouais, ton joueur vient d'accoucher, il est mort, puis toi, je veux pas que tu sois dans l'impro.
Ouais, oui, exactement. C'était chose commune. On voyait ça, il n'y avait pas grand pénalité qui se promenait non plus. Puis,
Ben parlons de pénalité parce que moi, je t'ai connu comme arbitre.
Oui.
J'avais pas conscience que tu étais joueur avant. T'es joueur maintenant, mais dans le temps. Est-ce que tu as commencé comme joueur? Est-ce que tu as vraiment commencé comme arbitre?
J'ai commencé comme joueur. Sauf que je me trouvais pas bon, OK? Je trouvais tellement les autres autour de moi tellement bons, puis surtout rendu à l'Université de Moncton avec Luc Leblanc, Robert Gauvin, Eric Butler, toute cette gang de monde-là. C'était tellement bon. Puis quand on allait au QI, c'était encore pire parce que on arrivait là, puis sur les autres équipes de la LUI, c'était Jean-Michel Anctil, t'avais François Morancy qui jouait, t'avais Mario Jean. C'était des joueurs incroyables, puis il y avait d'autres, je peux pas tous les nommer, là. Mais c'était des joueurs de calibre. Moi, je me trouvais vraiment pas à ce niveau-là. Fait que j'ai dit, OK, je vais faire arbitre. Au moins, je connais les règles, je connais le jeu, je peux arbitrer. C'était quand même bien de vivre l'expérience d'arbitre parce que ça me permettait de participer, de vivre l'expérience quand même. Parce que sinon, si je m'aurais dit, oh, ben là, je suis pas assez bon, je me désiste, j'aurais manqué des super de belles occasions dans ma vie de vivre des choses absolument incroyables. Je veux dire, quand j'ai arbitré, là, j'ai vu des impros merveilleuses. J'étais sur le bas de la bande, pas que la foule me voyait, j'étais crampé de rire, puis je me levais, puis je devais reprendre complètement mon sérieux, puis demander le vote parce que l'impro était extraordinaire. Mais on peut imaginer avec les gens qui étaient là à l'époque, c'était quand même du grand jeu. On avait des gens qui ont percé dans le domaine des arts aujourd'hui, qui sont quand même reconnus. Puis une anecdote, 2 années d'affilée pendant que j'étais arbitre sur l'organe, parce qu'on faisait, là, comme on collait les thèmes, puis il y avait quelqu'un qui jouait l'organe comme au piano, là, comme Yvon Ponton le faisait à la LNI. C'était François Pérusse, 2 années d'affilée. Alors, quand même surprenant que ces gens-là étaient là. Je m'en rappelle, François m'avait fait un commentaire. Puis ça a résonné avec moi beaucoup. À un moment donné, on était à un QI, c'était suite à la Polytechnique, à la tuerie de la Polytechnique. Puis l'atmosphère de la Polytechnique était encore là, les gens étaient encore marqués par ça, puis c'était assez lourd. Mais on essayait de décrocher, puis on essayait de s'éloigner de toutes ces pensées-là, puis jouer pareil. Puis malheureusement, il y a un joueur d'une équipe, je pense que c'était Trois-Rivières, il embarque sur l'aire de jeu, puis joue un personnage, mais il dit qu'il haït les femmes.
Je vais te corriger puis te dire que c'était l'équipe hôtesse,
Oui.
c'est-à-dire la l'UQAM, parce que
Oui.
c'était le match avec Edmundston, moi,
Ah
McSween,
bon,
etc.
OK,
C'est
voilà,
McSween qui est dans
voilà.
l'arène et l'autre dit que tu sais, il a tué un autobus plein de gens. Mais c'est un joueur anciennement de Trois-Rivières, donc t'es pas complètement dans le champ.
OK, d'accord.
Je m'en souviens bien parce que c'était ma première cuite, t'imagines.
Ouais, tu peux imaginer la réaction de la foule à cette époque-là, que ce joueur-là, il n'a pas réussi par la suite à gagner un impro, je pense. Je m'en rappelle, François Pérusse, après le match avait terminé, il vient me voir. Il me dit, Stéphane, moi, ma plus grande phobie, c'est faire de l'humour qui va blesser. Il va faire de la peine à quelqu'un, contrairement à Mike Ward, là. On parle d'autres choses. Mais François Pérusse, si tu écoutes son humour, ben c'est un, tu sais, il va faire des jeux de mots, il va faire de quoi vraiment banal, terre à terre. Il attaque personne, pas directement. C'est comme, c'est vraiment de l'humour facile, ben pas facile, mais douce envers qui que ce soit. Puis j'admire ça. Je trouve que c'est vraiment bien de penser de même, de voir qu'on peut faire ça. C'est pas nécessaire de rire de quelqu'un pour être drôle. Mais au contraire, on peut faire plein d'humour, puis il a fait sa carrière là-dedans, lui. Les gens l'aiment, puis il a pas eu besoin de s'attaquer à personne.
Ben, j'imagine, la question reste quand même que quelqu'un ici pose, là, puis je ne suis pas capable de trouver son nom. Ah, c'est Danny Labrie de nouveau. Là, tu as arbitré pendant ces années-là.
Oui.
Tu es revenu au jeu par après. As-tu une véritable préférence?
Je préfère de loin jouer, beaucoup plus.
Okay.
Ouais, parce que être sur scène, c'est quelque chose. C'est un sentiment que tu fais une performance, mais étant arbitre en chef, tu as un seul rôle. Ton rôle ne varie pas. Il est constant. À un moment donné, j'ai essayé d'amener une variance à mon rôle. Je m'en rappelle une QI. J'avais appris un accent marseillais de la France, juste pour le trip. J'ai arbitré un match au complet avec un accent marseillais.
T'as-tu passé?
Le match d'après, j'ai repris mon accent normal. Ils ont dit, hein, qu'est-ce qui arrive à son accent? Je sais pas. Déjà là, ça me travaillait. C'était pas assez de juste jouer un rôle. Je voulais varier ma créativité, faisant en sorte que je voulais apporter d'autres choses au jeu.
Tu retournerais à l'arbitrage aujourd'hui?
Ouais, je pourrais peut-être en faire pareil. Je l'ai fait un petit peu là, tu sais, à l'occasion, mais c'est plus ma passion. Je l'ai fait parce que, comme je dis au départ, je me sentais comme pas à la hauteur des joueurs qui jouaient à cette époque-là. Fait que je les accote pas. C'est pas moi qui va percer dans le domaine comme eux autres. C'est pour ça que j'avais appris comme un rôle qui était plus stable.
Ça a changé.
Ça a changé.
Maintenant, tu es à la hauteur, c'est ça que tu veux dire?
C'est parce que j'ai quand même appris des choses qui ont augmenté ma confiance. Puis ça, c'est le théâtre. Théâtre communautaire qui m'a apporté ça.
Ça va nous nourrir pour la deuxième partie, évidemment.
Oui.
Une des choses que nos auditeurs vont sûrement vouloir savoir, parce que beaucoup de gens dans notre temps, c'était rien, ça n'existait pas quand on était plus jeune, mais la gogoune dorée, les tournois secondaires, avant que l'université de Moncton, comme tel, le peloton dans lequel moi je faisais partie, commence à s'en occuper au mi-temps des années 90, il y a quand même eu 4-5 gougounes, là, où ce que l'implication adulte était très variable. Mais toi, tu as arbitré dans ces premières gougounes-là. Et je suis sûr que les gens voudraient savoir comment est-ce que c'était, les débuts de ce tournoi secondaire-là.
Ben, qu'est-ce que je me rappelle, parce que ça fait quand même assez longtemps.
Ouais.
On avait beaucoup d'expérience avec les QI, avec l'université. On amenait quand même un bon bagage d'éléments pour au moins avoir une belle présentation. J'ai l'impression que on voulait quand même donner la chance aux jeunes de prendre leur place, d'aimer le jeu. On voulait pas être trop rude ou trop à cheval sur tous les règlements de façon très pointue. Si l'impro était bonne, ben, c'était pas nécessaire de donner une pénalité. Si la foule était, OK, ah, on aimait ça, même s'il y avait une petite affaire technique, là, pas dans le style Stéphane Raymond, puisque il a cassé sa mine de crayon au début de l'impro, puis à la fin de l'impro, il arrive puis il écrit avec. Là, puis il y a une pénalité pour manque d'écoute envers lui-même. Tu sais, c'est comme ça.
Puis même ça sonne très raisonnable pour Stéphane.
Oui, mais c'était le genre de pénalité qu'il lui donnait. Puis moi, je me sentais pas dans la nécessité de taper les jeunes si on va livrer une belle histoire, si on va parler fort. S'ils parlaient pas fort, au moment que ça m'emmène ou si on doit la foule, oh là, par exemple, là, OK, on arrête l'impro, on replace le monde, on leur dit parler plus fort. On faisait ça. Ça, c'était.
Qu'on fait aujourd'hui, fait que c'est il y a des constantes. Ben, c'est ça, après, là, tu finis tes études. Dans quoi tu as étudié? Parce que j'imagine que c'était pas en théâtre.
Non, pas du tout. J'ai étudié en psychologie.
Oh, moi aussi.
Oui,
C'est
OK. C'est bien, on a quelque chose en commun.
comme eux en impro.
Ouais, j'imagine qu'il y a des choses qui nous interpellent, peut-être, à ce niveau-là, à comprendre l'être humain un petit peu plus, le pourquoi de la folie, de la créativité. Il y a sûrement quelque chose là-dedans.
Ben, tu finis tes études, toi tu reviens dans la région, tu retournes au Madawaska.
Oui, je retourne au Madawaska, puis là, ben, évidemment, on a notre ligue de l'Madawaska. En quelque part, j'ai étalé ça, là. Mais en tout cas.
Oui, d'ailleurs, si vous regardez la version diaporama, Stéphane m'a envoyé plein de
Ouais.
cette documentation. Toi, tu as tout gardé vraiment en archive, là.
J'étais fanatique, là, moi, à l'époque, là. Quand on a gagné la QI, là, moi, j'étais vraiment fier de ça, là. Tu sais, c'est comme, j'ai cadré ça, là, avec, j'ai gardé le poster original que j'ai pris là-bas, puis j'ai pas voulu laisser ça aller, puis j'ai mis comme tout nos découpages de journaux, de qu'est-ce qu'on avait fait. C'est comme, c'est la première fois qu'on gagnait quoi de significatif hors Québec ou à l'est du Canada. Puis j'étais vraiment fier de ça. Puis mon nom n'est pas sur la Coupe nationale d'improvisation parce que j'étais arbitre. Fait
Been
que c'est.
there. Quand même une fierté.
Non, quand même, c'est ton école, right? C'est
Ouais.
tes amis qui sont dans ce groupe-là, etc. Fait, comment de temps ça prend avant que tu recommences à jouer de l'impro? Comme une fois que tu finis ce parcours-là qu'on vient de discuter au début des années 90, est-ce qu'il y a effectivement un intérim ou un...
Ben, il y a de l'impro, ça va et ça vient. On a des matchs, mais on n'a pas beaucoup de monde qui vient nous voir. Puis après ça, ben, je me fais inviter à faire quelques pièces de théâtre. Puis là, je me dis, ah ben voilà, une autre façon de d'être, tu sais, dans mon élément. Parce que oui, faire une pièce, tu joues un personnage, mais tout ton non-verbal, toute la façon que tu livres le personnage, ça, c'est vraiment de ta personne. C'est pas écrit nulle part dans le texte comment livrer le personnage. Puis là, bon, je me fais inviter à jouer un rôle dans Les Secrets bien gardés en 2008. Dans cette pièce-là, on parle des personnes âgées, puis on fait de la sensibilisation par rapport aux personnes âgées. Mon rôle à moi, je m'assieds avec mon père, que lui, il a une démence. Puis on joue aux échecs, puis il oublie comment jouer, puis moi, je suis rude avec lui. Puis c'était vraiment la première fois que je devais jouer une personne rude. C'était pas dans moi, c'est comme. Vraiment, comme ça m'a poussé à me dépasser, puis de découvrir que, oh, j'étais capable d'être rude, puis pas avoir peur de jouer le personnage devant la foule, parce que je savais que quand tu joues un méchant, là, ben, le monde t'aime pas nécessairement dans la
Oui.
foule. Tu sais, je devais être rude avec l'autre acteur qui jouait mon père. On jouait aux échecs, puis je me frustrais à chaque fois qu'il se mêlait, puis je jouais mes pions plutôt que les siens, puis là, je perdais patience, puis je disais, là, OK, je m'en vais, puis en tout cas, c'était ma première pièce que j'ai faite. À cette époque-là, les Bréons masqués n'existaient pas.
Qui est la troupe dans laquelle tu œuvres maintenant?
Oui, puis dans laquelle je suis aussi le président du conseil d'administration. Depuis 2 ans, c'est ça, j'ai pris le rôle de président. Et puis, évidemment, bon, il y a d'autres pièces qui suivent. Puis, en faisant les autres pièces, bon, c'est sûr que là, on découvre des choses intéressantes, mais ça, je sais pas si on est
Oui,
rendu à la
on en
deuxième
parlera dans la
partie.
deuxième partie, évidemment, mais c'est pour montrer que même quand on prend un break, même si on joue pas souvent ou tout ça, en faisant d'autres choses, en vivant, en ayant des expériences, on accumule du bagage qu'on peut amener en impro après, avec nous autres après, qu'éventuellement, tout ça, tu pourras mettre à profit dans l'arène d'impro. C'est quand même drôle que tu avais de la difficulté à jouer un méchant quand ce que tu avais été arbitre si longtemps.
Surprenant, c'est.
Parce que pour beaucoup de monde, t'es le méchant, mais aussi à Edmundston, il y a deux arbitres. Stéphane Bourgoin, Stéphane Raymond.
Stéphane Raymond, c'est le méchant. Moi, je suis le bon arbitre.
C'est ça. Fait qu'il y avait comme un arbitre gentil, si on veut.
Exactement. Ça a toujours été ça.
Qu'est-ce qui est la machine? Parce que si on ramène l'impro à un moment donné, c'est comme l'ancêtre de la Lima, dans le fond.
Oui, ben c'était tous les anciens joueurs qui voulaient reprendre un peu la capacité de remonter sur scène puis jouer de l'impro encore. On avait tout ça. dans le cœur. Puis la machine du Madawaska, on s'est dit, oui, faisons ça, embarquons-nous, on est suffisamment de personnes pour livrer un spectacle. On n'avait pas bien choisi nos endroits pour jouer. Au Dooley's, à l'époque, on avait installé l'arène, c'était un bar. Puis dans un bar, ben, c'est comme... T'as une table de poule à côté, puis ils se mettent à jouer de la table de poule pendant que tu joues, puis là, les boules font ensemble, puis toi, tu essaies de parler par-dessus les autres qui jasent, puis ils boivent la bière. Ah, c'est drôle. C'est dur de livrer un spectacle dans ce temps-là.
Une table de poule dans le bar que tu joues de l'impro est tellement un classique de l'impro. Je sais que la majorité du monde a eu cette... Avant qu'on jouait vraiment dans des salles de spectacle, là, je trouve qu'une pleine génération d'improvisateurs, que c'est comme... Les tables de poule, là.
Ouais. Ils ont rempiré une année, ils ont ajouté une table de foosball à l'université. Ça, c'est le pire de pire.
Oh my. Ouais. Ouais.
On allait
non,
voler la
ça
boule.
Va pas bien.
Fait que la machine joue un peu comme dans ces environnements-là. Et puis là, on a renoué, si on veut. Je n'avais pas vu, ça faisait très longtemps, mais quand est-ce qu'on a commencé ces tournois-là? Le Richard Terrien, le nom est un hommage à une personne qui avait développé les arts et, entre autres, l'improvisation à l'université à Edmundston, qui avait décédé dans les temps récents, à ce moment-là, début des années 2000. Bon, la machine est là. Toi, t'es là. Là, je te découvre comme joueur, si on veut, à ce moment-là.
Oui, j'ai vraiment été beaucoup plus présent comme joueur à cette époque-là. Je me sentais un petit peu plus à l'aise aussi, les chanter, des choses comme ça. On dirait que ça sortait plus fluide. J'étais comme plus confiant, puis j'étais pas le meilleur des joueurs, mais j'avais augmenté d'un petit cran là au niveau de la façon de livrer.
Quand il n'y a plus ce tournoi-là, éventuellement, il y a un tournoi adulte qui s'appelle le Zèbre d'or.
Oui.
Et dans les deux dernières années, on disait qu'on bouge vite, là, mais... en termes d'impro, la Lima commence à reprendre ses forces et en même temps, ben, ça leur donne, ils prennent l'opportunité de venir jouer aux Zèbres après la pandémie. Donc, les deux derniers tournois, t'en faisais partie. Et je pense que c'est là que les gens t'ont découvert. Les gens d'ici, la communauté at large d'impro qui se connaissent bien. Ça, c'est une équipe qui n'avait pas participé depuis, ben, qui n'avait pas encore participé aux Zèbres d'or.
Non.
Connaissent Michel Ledoux, peut-être connaissent peut-être Vicky à travers d'autres choses. Mais toi, t'es comme, je me souviens, t'étais la révélation. Tout le monde dit, oh, Stéphane.
Ah oui. Tout le monde était absolument charmé par toi.
Ah.
C'est juste comme absolument le joueur qui était stand-out pour tout le monde.
D'où le prix de performance ou de personnalité la plus sympathique cette année-là, tout ça. Et il y a plusieurs questions à ce niveau.
OK.
Parce que si je prends Claude Allard qui dit, tu donnes toujours une vibe optimiste quand tu entres. Stéphane prend un pas et tu peux dire que ce gars-là est de bonne humeur. Je me demande si tu as développé ça consciemment ou si ça a toujours été ton approche au jeu. Semblablement, Basse Lévesque qui demande « T'as l'air d'avoir tellement de plaisir à jouer, comment tu restes toujours si enjoué? »
Oui, quand j'embarque sur l'art de jeu, pour moi, aujourd'hui, dans ma tête, j'embarque complètement d'un autre monde. Comme je me rappelle quand j'ai commencé à jouer à D&D les premières fois, le sentiment que j'avais dans moi, là, que j'étais un autre personnage, quelqu'un d'autre complètement. Là, j'embarque dans ce monde-là. Puis moi, si quelqu'un dit, il y a une porte là, dans ma tête, il y a la porte là, mais je jouais pas juste la porte. Je jouais plein d'aspects de la porte. Je jouais les détails de la chambre. Les choses se colorent puis prennent vie autour de moi. Puis c'est comme magique. Dans ma tête, ça a devenu ça. Pour une raison quelconque, je suis pas sûr. Peut-être que mon envie de créativité m'a apporté à mon cerveau à réfléchir de façon spontanée de cette façon-là. Puis c'est comme si que pour moi, c'est plus facile d'accepter quoi que ce soit. Quelqu'un me lance de quoi qui sort du champ de gauche. Ben oui, c'est ça. C'est vrai. Pour moi, c'est correct. Je suis comme vraiment à l'aise avec quoi que ce soit qu'on m'apporte. À cause, je me fais pas d'attente. Je me dis, parce que ce monde-là, je le connais pas, je le découvre. Mais il y a des choses que je connais dedans. Il y a des choses qui sont de la nature standard. La gravité, ça existe, lors de quoi ça tombe. Puis c'est important que ça soit là, ces choses de base-là, parce que quand tu présentes quelque chose, si ça c'est trop détaché de la réalité, si ça n'a aucun sens, tu perds un peu l'esprit de la foule de te suivre, de vouloir s'embarquer avec toi. Mais si tu maintiens des choses qui ont un certain sens, puis à un moment donné, je m'en rappelle, c'était un impro où un joueur touche un autre joueur, puis il meurt. Puis moi, j'embarque sur le jeu, puis je l'invite à me toucher. Puis il me touche avec son autre main, mais il dit, c'est ma main gauche qui tue les gens, et pas ma main droite. Mais pour moi, je savais tout le long que sa main gauche allait éventuellement me toucher. Puis comme de fait, sa main gauche me touche, et je meurs. Pour moi, c'est comme, tu peux pas enlever cette mortalité-là, ce pouvoir-là qui s'est doté. Si tu l'enlèves, s'il touche puis tu meurs pas, tu viens de casser complètement l'impro. Ça perd son charme. Mais si tu le gardes dans l'histoire, puis il touche puis tu meurs parce que lui a établi ça, ben ah, voilà, l'impro continue.
J'allais demander justement, parce que je pense que justement, la question à Bob Savoie, comment c'était de faire, dans le fond, rencontre avec un groupe d'improvisateurs de différentes régions, de différentes cultures, de différents groupes d'âge. T'arrives là, puis c'est un peu tout le monde. Puis justement, si on regarde, si on parle de des exemples d'impro de tantôt, dans l'âge de Pierre, là, où ce que le monde essayait juste de
De se planter.
Ouais, de débarrasser les joueurs, juste de
Ouais.
comme, tu sais, tuer les joueurs alentour d'eux. Et certaines équipes, les équipes plus jeunes qui ont joué dans les deux derniers, les équipes universitaires qui ont joué dans les deux derniers Zèbres, qui étaient presque surréelles des fois, tu sais, c'était beaucoup de curveballs. Comment est-ce que tu as retracé ça, cette différence-là, à travers, ma foi, les derniers, on va dire, ben, 40 ans?
Ouais, je suis d'accord. J'ai perçu cette différence-là. C'était comme, c'est tangible. J'haïssais pas ça. Je me dis, ben, pourquoi pas? Toutes les choses évoluent, toutes les choses changent. Faut suivre la vague. Puis moi, je suis quelqu'un, à un moment donné, quelqu'un dans mon entourage de l'impro avait dit, casse pas son buzz. Casse pas son buzz, ça voulait dire que si lui, là, il est tout énergisé, il a du plaisir, il est dedans, ben, tu sais qu'il va faire un bon spectacle. Il va rendre ça agréable pour les spectateurs. La foule va le suivre parce que il est dedans. Puis je crois beaucoup à ça de pas casser le buzz de l'autre. Puis si tu veux pas casser son buzz, ben faut quasiment comme t'embarques avec ce qu'il amène, puis tu le soulèves. Tu lui dis, OK, oui, puis en plus, parce que tu valides son sentiment, puis tu lui donnes de l'espace. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est important. Des artistes que j'ai rencontrés au Salon du Livre, je leur posais la question, quand tu es sur scène, quand tu travailles avec d'autres personnes, c'est quoi la chose la plus importante? Puis ils m'ont toujours dit, c'est d'être généreux, de vraiment faire de l'écoute, prendre le temps de réagir, mais de donner de la place à l'autre. Puis, j'ai pas toujours été fidèle là-dessus, là. Moi, j'ai tendance à couper la parole une fois de temps en temps, mais donner de la place à l'autre, parler à son tour, puis de dire tout ce qu'il a, il veut. Puis, ça limite les impros avec de la confusion. Tu sais, quand tu fais ça, ben, tu donnes vraiment une continuité à l'histoire. Puis, si tu as écouté, puis tu le fais de façon consciente. Consciente, puis encore, je fais le lien avec le théâtre, là. Quand tu as du texte à dire, puis c'est pas à ton tour, ben, juste être planté là, puis rien faire, ça vaut pas grand-chose. Ton non-verbal, faut qu'il suive l'histoire puis il réagisse. Si quelqu'un dit de quoi, là, comme c'est comme, puis il l'a tué, ben, faut tu. Ah! Tu sais, t'as du non-verbal, t'attends pas juste le tour de ton texte puis dis, OK, mon texte, c'est là où je dis ça, là. Non. Il a dit de quoi de significatif, puis pour créer l'ambiance totale puis embarquer la foule dans l'histoire, même si t'as pas de texte, ton non-verbal, il compte.
Et ça, c'est quelque chose que tu amènes beaucoup en impro aussi, n'est-ce pas? Je pense
Oui.
que quand le monde dit qu'il y a une vibe, c'est qu'on le voit dans ton corps en entier, non?
Oui, puis quand je dis soulever que l'autre qui parle, ben c'est justement être à l'écoute puis réagir à ce qu'il dit. Juste planter là, puis attendre que ça c'est mon tour, puis je dise de quoi de plus intelligent que lui, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment, on fait partie de l'histoire ensemble, puis on veut présenter quoi de bon, mais pour que ça soit crédible, ben moi, il faut que j'embarque dans son histoire aussi, puis il faut que j'y montre que je suis lié à lui, puis en réagissant à ce qu'il dit, ben ça soulève ce que lui amène aussi. Pour moi, je trouve ça bon de faire ça.
Aussi dans l'arène, je pense qu'à cause que tu as cette attitude-là de proposer quelque chose, OK, oui, j'accepte ça que tu dis comme activement, puis genre, j'intègre ça à ça, pour moi, je vais faire comme ça, c'est une générosité, une sympathie que les joueurs sortent de ces impros-là, puis se sentent bien, mais se sentent valorisés par cette impro-là. Je pense que ça donne cette belle impression-là que beaucoup de monde a retenue après avoir joué avec toi.
Une expérience thérapeutique avec Stéphane Bourgoin. Ça se peut-tu?
Peut-être. Peut-être ma psychologie, je sais pas.
Plus conscience du mieux-être des autres, peut-être?
Peut-être.
Peut-être. Pendant ce temps-là, tu es dans la Lima aussi. Il y a plein de monde qui sont venus au tournoi, qui ont fait rencontre avec toi, mais la Lima, c'est comme toutes les ligues locales, régionales, c'est un peu insulaire. Fait que ça serait intéressant de parler un peu de comment ça se passe, comment c'est quoi le feeling à la Lima?
Ben, la Lima, on apporte peut-être des aspects assez intéressants. Il y a des pratiques. Moi, je manque des pratiques. Je suis souvent à l'extérieur pour le travail. Mais on fait des pratiques. Puis même qu'à un moment donné, pendant le Zèbre d'or, j'ai un joueur qui m'a dit, Stéphane, tu fais des meilleures choses dans les pratiques que tu fais ici ce soir. Fait que change l'écran de qu'est-ce que tu faisais. Je me rappelle, on faisait comme un genre de Facebook, puisque on bougeait à chacun notre tour, puis on présentait quoi. Puis moi, je dis, guitare à vendre, pas de cordes. Ça sonne comme air guitar. Les autres étaient crampés. en pratique. J'ai jamais amené ça dans le vrai jeu, là, tu sais, comme. Puis là, on me reprochait que, bon, Stéphane, eu sont tes bonnes idées, mais tu as des bonnes soirées, tu as des moins bonnes soirées, ça varie. Puis je pense que ça, c'est normal. C'est pas quelque chose de. Parce que t'es reconnu comme bon joueur, tu vas toujours, toujours performer à la hauteur des attentes de tout le monde. C'est pas vrai, ça. Ça va varier, puis ça dépend de tout ce que tu vis à tous les jours, ça dépend de ton niveau de fatigue, etc. La Lima, ce qui est bien, c'est qu'on avait les idées ouvertes. Bon, on se disait, OK, on a des jeunes dans la région qui veulent jouer aussi. Alors, on les fait jouer avant nous autres, après ça, on joue les adultes. Ben, sais-tu que t'as pas une mauvaise idée parce que finalement, tous les parents sont venus avec les jeunes, ils ont regardé, ils ont rempli la salle au complet, ils ont regardé les jeunes, puis ils ont resté pour nous voir nous autres. Ça fait qu'ils ont découvert notre impro en même temps qu'est-ce que nous autres, on avait à offrir. Puis, ils se sont dit, ben OK, ben, ils sont quand même bien encadrés. Certains des autres sont des coachs, les aménageurs, ils font déjà là, ça l'a comme réveillé à certaines personnes qui, tu sais, qui se disaient, ben là, l'impro, pas si fort que ça. Ben non, en fait, il y a quand même un bon gabarit de joueurs dans la région qui réussissent à se livrer de façon attirante, agréable, que tu veux revenir, tu veux revoir. Puis, ça fait partie de notre succès. Je pense des petites idées de même qu'on a apportées a fait en sorte que, puis l'idée que, tu sais, on t'a appris à laisser de la place aux jeunes. On ne voulait pas garder de la place toute pour nous autres. Puis, en bout de ligne, ça a été bénéfique.
Je pense que ça crée un beau cheminement entre la jeunesse et les joueurs futurs de la Ligue aussi. T'sais.
Oui.
Ils jouent peut-être pendant qu'ils sont jeunes ou peut-être viennent voir ou jouent avant les matchs, puis éventuellement, ils ont un attachement avec la Ligue, fait qu'ils veulent jouer là plus tard quand ils sont adultes dans la région. T'sais.
Exactement.
C'est du recrutement.
Chapeau à Michel Ledoux, pierre angulaire de grand de l'impro dans plusieurs sens. Pour moi, Michel Ledoux, lui, il a fait des choses extraordinaires pour l'impro. Dans les écoles, il a toujours contribué beaucoup. À l'extérieur aussi, il a toujours été un bon joueur dans les impros qu'il faisait. Il jouait des bonnes impros. Il était quand même vraiment inspirant pour, tu sais, vouloir. Moi, quand il s'avançait à moi puis il dit, Stéphane, ça te tente-tu, on essaie tout ça, juste pour le trip. Ben, tout de suite, moi, oui, parce que c'était Michel Ledoux. Il était capable d'amener cette atmosphère d'agréable de jouer. Il n'était pas stressant, il n'était pas une personne qui est facile à être alentour. Il y a une belle conversation. Puis pour moi, m'attirer dans ce monde-là, grâce à lui, je pense que c'est un gros morceau.
Il y a une question pour vous, Michel, que je rappellerai la question niaiseuse de la soirée. Elle nous vient d'Alexandre Hébert. Il a passé un certain temps au Madawaska. Il demande, est-ce que ça prend une bonne flexibilité cervicale pour jouer avec Michel? Et d'où? Ça coûte combien de physio par année, mettons?
Ça, évidemment, c'est pire quand tu es plus proche de lui, parce que plus que tu es proche, plus qu'il faut te garder. Si tu te recules un peu, ça aide.
Regarde, on est ici pour les hacks, jouer pour une grande loin.
Mais tout le monde est tant loin de moi, je comprends pas.
Ou que tu grimpes sur la bande, puis là, ben, je te donne
C'est ça. Tu peux au moins le regarder dans le menton.
Oui, voilà.
Et ça nous amène comme à aujourd'hui, évidemment, dans la conversation. Peut-être la question à Isabelle Godin ici de comment tu vois l'avenir de l'impro dans le Nord-Ouest?
Ben, je veux dire que qu'est-ce que Michel fait, Michel Ledoux, et comme il continue à apporter ça. Il a attiré des gens qui sont comme très motivés de jouer. Il y a des joueurs qui reviennent dans la région qui vont s'ajouter aussi aux joueurs qu'on a présentement. Puis, je pense que tout de suite, il y a un intérêt, il y a un bon momentum. On réussit à avoir des gens qui viennent nous voir à nos spectacles. Puis, on a une belle salle, la petite église, le son est excellent là. Jouer dans cette salle-là, c'est pas compliqué parce que ta voix porte facilement, on nous entend bien. Il y a beaucoup de plus à se retrouver là. Dave Lévesque, qui lui s'occupe des choses aussi, nous donne un très bon coup de main. Puis ne pas avoir à jouer dans un bar à ras, une table de poule, hey, ça crée du potentiel, ça, là.
Alors, moi, je vais faire un impro théâtre parce qu'il y a juste des tables de poule partout.
Ben, moi, j'ai eu un rêve. À un moment donné, j'avais eu un cauchemar d'avant-cuit, genre, où il fallait jouer de l'impro en dessous d'une table de poule. C'est là que se passait le jeu. Fait que sûrement, c'était inspiré de ces
Oui.
événements-là. Bon, ben, on est rendu à nos questions éclairs. Bon, quand on dit éclair, ça veut dire qu'on répond brièvement, mais ça, c'est pas vrai de tous les invités.
Non,
Non.
OK.
C'est même rare, je dirais.
C'est même rare, mais les questions qui nous ont été envoyées de part et d'autre sur nos médias sociaux par rapport à ta carrière et démarche artistique. Isabelle, tu veux bien nous lancer?
Oui, bon, on a une question de Mathieu Bossé. Est-on capable de tout faire dans une arène d'impro? qu'il y a une certaine catégorie ou situation que tu aimes moins que d'autres?
La rimée.
Pourtant, tu as la parole facile.
Je vais faire une chantée, puis je vais rimer, puis j'aurai pas de trouble. Ça sort en rime tout seul. Mais je vais faire une rimée, puis je me dis, ben, je vais rallonger mon texte pour rimer seulement à la fin, puis j'ai oublié de rimer.
Des fois, quand on y pense trop, c'est là que
C'est ça.
ça part.
Question de Edith Morin, qui jouait pour les Favorites la première année au Zeb où tu as participé. Apparemment, tu sais ça déjà. Il sait qu'il est le favorite des Favorites. Est-ce que les Favorites sont tes Favorites? Ils sont mes favorites parce qu'ils étaient sur le point de faire un fan page de moi Oh
pendant
non.
le tournoi. Ils m'ont montré des memes à pu finir par rapport à moi, des photos de moi avec toutes sortes de situations cocasses, toutes les memes que tu peux imaginer. Puis là, ben, c'était tout en lien avec Stéphane qui est vénéré ou que, tu sais, choisir sauver le monde ou sauver Stéphane ou, tu sais, puis c'était incroyable. À un moment donné, même que je suis assis dans la foule, puis j'ai un chandail des Favorites qui m'est garoché, puis une plume que je signe le chandail. C'est comme, ils m'ont fait sentir comme un star. Oui, ils sont mes Favorites.
Entre équipes du Nord-Ouest, hein, faut s'appuyer.
Voilà une question de Michael Plourde qui demande, est-ce qu'un joueur doit évoluer et ou se réinventer c'est plus que 35 ans dans le jeu?
Je pense qu'il y a une évolution, certain. Une évolution parce que, dépendamment de tes expériences, tu accumules certaines connaissances qui te permettent de comprendre le pourquoi des choses et la façon de livrer certaines choses aussi. Lorsqu'on parlait de théâtre tantôt, je vais détailler ça.
Ce que je trouve intéressant dans la question à Bobo, parce qu'évidemment, la réponse allait être oui. Je pense que c'est difficile de ne pas évoluer. Comme qui s'assit là puis ne évolue pas avec l'âge. Mais le fait qu'il ait dit évoluer et ou se réinventer, puis je me demande s'il y a vraiment une différence entre les deux. Mais il doit y en avoir une. Je pense qu'évoluer, c'est quelque chose qu'on devient naturellement, mais se réinventer, c'est presque plus conscient.
Oui, je dirais que oui, conscient parce que se réinventer, ça veut dire volontairement aller vers quelque chose d'autre, de différent, qui est peut-être pas dans ton habitude.
Puis toi, est-ce que tu t'es réinventé?
Je sens pas que je m'ai
Tu as juste
réinventé parce que
évolué.
j'ai juste évolué parce que moi, je vois des personnages quand je vois D&D, là. Donjon et Dragon, là, je vois déjà des personnages.
Des
Puis,
personnages gentils.
oui, parce que quand on arrivait à une salle qui était à une porte fermée, ben moi, j'écoutais à la porte pour voir qu'est-ce qui se passait de l'autre côté parce que j'avais peur qu'il allait arriver quoi. Puis mon ami à côté de moi, ben lui, il arrive puis il défonce la porte. OK? Ben, en défonçant la porte, il y a 40 soldats là de bord. Puis on est obligé de courir comme des malades pour se sauver parce que lui, il était moins gentil que moi. Puis moi, ben oui, je vois encore le
Personnage
personnage
à
gentil.
Stéphane, il rentre dans un donjon. Ben là, faudrait pas trop voler, là. Ça appartient à quelqu'un. Il y a un monstre, mais on peut-tu y parler, voir? Il y a sûrement un point de
Ça,
vue.
oui! J'aurais voulu y parler, le monstre.
J'en doute
Ouais.
pas.
Je trouve que c'est ça qui est intéressant avec le réinventer et l'évoluer. Je pense qu'il y a comme une subtilité dans comme devenir meilleur dans ce que tu fais déjà. Puis là, juste complètement commencer comme un nouvel string de compétences. Tu sais, comme je pense que Mike, t'es un bon exemple de ça, où est-ce
Moi, je suis un
qu'il y a comme juste
réinventeur,
une année que tu as décidé que tu étais un joueur physique. Puis
moi.
t'as juste décidé ça une journée. Puis tu sais, comme je pense que comme ça, c'est comme un bon exemple de réinventer qui ce que t'es. Parce que là, tu peux vraiment juste comme tellement commencer de scratch. Comme pas entièrement, mais comme puis là, vraiment recommencer de quoi. Tandis que je pense qu'il y a aussi l'alternative de juste devenir vraiment, vraiment bon à ce que tu faisais déjà.
Ben, on va prendre une légère pause et au retour, on parle de théâtre communautaire avec Stéphane Bourgoin. À tout de suite. On est de retour. Michel Albert toujours au microphone avec Isabelle Gauguin.
Allô?
Et Stéphane Bourgoin.
Allô?
Donc, on parle, le sujet, c'est l'improvisation et le théâtre communautaire. Évidemment, tu as parlé tantôt comment est-ce que ton amour pour cet autre médium-là est né à la fin de ta phase 1 de ta carrière d'impro
Oui.
et qui est venu alimenter. Je pense qu'on va tout simplement utiliser la question à Monsieur Obvious, Danny Labrie, encore une fois ici pour lancer l'heure. Comment le théâtre t'aide aujourd'hui? Je veux dire, comment est-ce que faire du théâtre communautaire est utile à l'improvisateur, en d'autres mots?
Je vais revenir à la première pièce de théâtre que j'ai jouée en 2008, Les secrets bien gardés. Évidemment, du théâtre communautaire, on a peu de ressources, peu de gens qui travaillent autour de la scène. Quand on change des pièces ou quand on modifie des choses, ben les objets vont suivre des fois, ils suivront pas parce que bon, il nous manque du monde. Je me rappelle durant cette pièce où ce que t'as Chantal Lessard qui joue un rôle d'une madame qui est toute seule chez elle, elle s'ennuie. Puis elle a hâte que quelqu'un l'appelle pour faire la conversation. Puis là, le téléphone sonne. Elle est toute joyeuse d'entendre le téléphone. Elle regarde autour d'elle, puis il y a quelqu'un qui a oublié d'amener le téléphone sur scène. Qu'est-ce qu'elle fait? Puis là, il y a une télévision, puis un remote de télévision. Elle ramasse le remote, pas répond. Là, on entend la voix hors scène qui lui parle. Elle a improvisé avec qu'est-ce qu'elle avait en main. Donc, ça ne l'a pas empêché de livrer quand même son personnage puis de continuer la pièce.
Ça a juste changé l'époque.
Oui, tout d'un coup, oui, le type de téléphone n'était plus le même.
Non.
Mais pour la foule qui écoutait, c'était pas tellement séparé de qu'est-ce qui était la réalité. Ça ressemblait à ça, les téléphones qu'on utilisait durant la pièce. Fait que ça a passé. Il n'y a personne qui s'est rendu compte qu'elle n'a pas répondu au téléphone. Elle a répondu par parler, par faire sa conversation. Mais nous autres, après, on était crampés de rire. Mais on se disait, My God, on a oublié le téléphone en arrière-scène. Puis elle, spontanément, a dit non, the show must go on, je ramasse le remote et voilà.
Est-ce que ces genres de choses-là arrivent dans le fond, peut-être plus souvent, improviser devient plus important dans le théâtre communautaire où c'est pas vraiment le métier de tout le monde qui est là? Y a-t-il juste plus de chances à des erreurs, à
Oui.
des oublis de texte et donc
Oui.
faut improviser?
Oui. Il y a des chances à des erreurs parce qu'évidemment, les gens ne sont pas payés, ils font ça bénévole. Ils vont plus ou moins pratiquer leur ligne. Ils vont plus ou moins s'en rappeler. Puis des fois, ils n'entendent pas le souffleur parce qu'ils s'imaginent que ce n'est pas leur tour de parler. Ils n'écoutent pas le souffleur. Ça fait que moi, je me retrouvais à quelques occasions à devoir arriver puis dire, ben, à un moment donné, c'était une pièce, le dernier mystère. Puis je vous mets en contexte. On est au ciel. On est tous des détectives décédés. Moi, je joue Hercule Poirot. Monique McCool joue le rôle de Miss Marple. Puis on a James Bond. On a Fantomas. Puis on essaie de figurer qu'est-ce qui se passe avec un meurtre qui arrive au ciel. Tout une affaire cocasse comme pièce, là. Mais elle oublie sa ligne. Puis ça pose pas la question. Il va manquer un élément qui est vraiment comme déclencheur pour d'autres choses par la suite. Puis, moi, je suis conscient qu'elle a complètement oublié sa ligne. Il faut qu'elle livre absolument sa ligne. Alors, j'essaie de demeurer dans mon personnage, puis c'est moins évident, parce que toi, tu connais tes lignes, puis tu as pratiqué tes lignes dans ton personnage, puis tout d'un coup, ben là, faut que tu lui dises, ben, il me semble que tu me jasais d'autres choses qui t'avaient amené à réfléchir par rapport à une situation quelconque qui te faisait penser à tel événement.
Tu la promptes.
Oui, puis là, oh oui, puis là, elle s'appelle, puis là, elle livre sa ligne. Puis heureusement que malgré ces moments-là, qu'on réussit quand même à se débrouiller. Puis c'est sûr que on fait trois représentations. On faisait trois représentations le vendredi soir, le samedi soir, puis le dimanche après-midi. Puis c'était jamais pareil. Il y a toujours quelqu'un qui oubliait quelque chose en quelque part, mais on improvisait pour continuer. Puis on se disait, c'est pas grave parce que la foule, les autres, ne connaissent pas l'histoire. Ils ne savent pas c'est quoi ce qu'il y a là-dedans. Mais quand c'est une question clé qu'il faut que tu poses parce que sinon l'intrigue est manqué, ben on peut pas passer par-dessus puis continuer là.
Non.
Faut déclencher cette question-là puis faire réagir la personne.
Je me demande si l'élément impro dans ces contextes-là, c'est l'audace, comme c'est l'audace de faire, moi je vais m'en occuper. C'est comme, ben, il faudra faire
Oui.
ça. Parce que ça serait autant facile de faire comme, le téléphone n'est pas sur scène, puis là, de juste faire, je sais pas quoi
Ouais.
faire d'ici, j'ai pas ça que j'ai besoin, on va casser la scène, puis il faudrait dire, ben, j'ai pas de téléphone, on peut pas continuer, comme tu sais. Donc, ça serait facile de faire ça, mais de faire le choix qui est un peu plus audacieux, de faire, ben moi, je vais continuer, puis faire un choix. Juste faire un choix que personne a approuvé, que personne n'a choisi de faire. C'est juste un choix de les facteurs que j'ai devant moi pour que je fasse une décision, split second. Puis je me demande si c'est cet ingrédient-là que l'improvisateur a.
C'est le souci de garder l'ambiance de la foule qui te regarde pour pas que ça casse l'histoire. Parce que, tu sais, t'as captivé leur attention. Tu veux qu'ils demeurent captivés. Ça fait que tu veux pas que, parce qu'il y a quelque chose qui manque ou tu veux pas que ça devienne de quoi qui casse l'ambiance. Puis, je pense que consciemment, tu dis, ben là, oui, j'ai pas de texte là-dessus, mais je vais quand même, je vais livrer de quoi pareil. Je vais sortir quelque chose qui va la souvenir. OK, oui, j'ai ça à dire. OK, je me rappelle, là. Elle dit, puis ça continue.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisateurs dans votre troupe ou t'es comme le seul?
Je peux dire que Doris Leroy,
Ah, Doris.
oui, Doris a fait de l'impro, puis elle a fait partie des Bréons masqués. Mais à part de ça, Les autres personnes, c'est des gens qui ne toucheraient pas à l'impro, mais ils se débrouillent quand même assez bien. Ils comprennent le concept.
C'est sûr que tu pognes des. Si maintenant ils commençaient à jouer de l'impro, il y aurait déjà un petit
Ouais.
fond là. Il
Un
serait
petit
pas.
fond, un petit quelque chose pour décoller avec. Puis, dans le cas de Danny Labrie, qui a fait des musicals, ben lui, ben c'est ça, il a été sur scène, il a joué des personnages, il a chanté, fait que faire des chantés, c'est facile pour lui. Il a des atouts qui font en sorte que pour certains aussi, il est une découverte de l'année parce que on a été surpris de qu'est-ce que lui pouvait apporter au jeu, puis on l'avait pas vu tant que ça avant là non plus. Fait que un joueur très intéressant, très agréable à jouer avec.
Une question que je me pose, c'est pour avoir vu du théâtre communautaire, participer à un peu de théâtre communautaire, théâtre universitaire, c'est-à-dire amateur, qui n'est pas dans le même genre, si on veut. Est-ce que vous jouez toujours des pièces? Je regardais ton CV, puis 12 Angry Men est là-dedans. Il y a des pièces qu'on reconnaît.
Du Molière, on a fait Auberge des morts subites, oui, puis vraiment une grande variété de pièces.
Mais est-ce qu'il y a des textes que vous avez écrits vous autres-mêmes, que vous êtes en train de un peu créer sur scène des fois?
Oui, il y a un texte hommage aux religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Ça, c'est le 150e, puis c'est Dr. Jeannot Castonguay qui a écrit le texte, il a pris un livre, puis il a regardé l'histoire de ces femmes-là, des femmes incroyables qui ont fait des avancements au niveau non seulement santé dans la région, mais au niveau de l'éducation aussi, parce qu'ils ont été interpellés à enseigner. Puis c'est une histoire qui n'était pas vraiment connue dans la région. On savait, on a l'édifice Maillère pour Sœur Maillère, on connaissait l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph, mais on n'avait pas la notion de tout ce que ces personnes-là, ces femmes-là, on va apporter à la région, même contre certains hommes qui étaient comme moins vaillants, moins prêts à oser aider la population de la région. Dans cette pièce-là, on relève des faits, mais on présente une histoire pour que ça soit plus, puis on peut l'écouter sur la télévision Rogers de façon indéfinie parce qu'on a signé les droits à Rogers pour la jouer aussi souvent qu'ils veulent, là.
Je connais bien ça.
Justement, dans cette pièce-là, il y a une partie qui t'a interpellé à l'improvisation, puis il m'a choisi comme rôle du docteur, docteur Jeannot Castonguay, parce qu'il savait que je pouvais improviser. Dans le texte, c'est écrit, on ampute un pied. C'est tout ce qui est écrit, mais la scène dure 5 minutes. Il n'y a pas de texte, zéro texte. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, mais ça dure 5 minutes. Il s'est juste écrit, on ampute un pied. Je devais procéder à toute l'allure, la façon de faire à l'époque, livrer un non-verbal de comment on faisait une amputation. Il m'a montré quelques petits trucs de comment coudre un pied qui a été amputé, mais il fallait sortir la scie, puis scier le pied, puis me faire ça de façon brève, faut pas perdre l'attention non plus de la foule qui écoutait. Il y a une partie là qui était intéressante, même il y a une section avant qui m'a demandé complètement d'improviser parce qu'il y avait pas de texte pour, mais il voulait que le médecin arrive une heure en retard parce qu'il était au côté américain. Il y avait une heure de différence. Mais moi, j'avais demandé d'être là à 9h30, puis arrive à 10h30. L'opération était finie, là, évidemment, mais c'est parce que lui suivait l'heure américaine. On avait improvisé un petit bout aussi, assis à une table, on jasait jusqu'à lui était, puis il voulait me livrer des choses du côté américain. Puis c'était pas écrit ça non plus. Fait qu'on avait improvisé ce bout-là, puis à chaque fois qu'on présentait, c'était différent un petit peu aussi, là.
Ça fait partie de justement là, de ce type de théâtre-là, d'être un peu comme des fois pris à dépourvu pour ces choses-là. La seule vraie théâtre communautaire que j'ai faite, là, j'étais souffleur, OK? C'était à
OK.
Saint-Basile. C'était à
Oui.
Saint-Basile. Avant que je quitte, comme souffleur, j'avais rien à faire sauf souffler, évidemment, mais là, ils ont décidé. Tu sais, c'est ça, là, ils étaient en train un peu écrire la pièce à mesure qu'ils pratiquaient parce que tout d'un coup, ils avaient besoin du Père Noël, c'est à propos d'un réveillon. Puis ils avaient besoin d'un Père Noël qui arrive. Fait, ils ont dit, ah ben, Michel, t'es là. Pourrais-tu sortir de ton petit trou, enfiler le costume de Père Noël, puis là, tu rentres, puis t'es le Père Noël. Tout ça. Et c'était tellement improvisé cette affaire-là, mon bout, anyway,
Oui.
que après, et à ce jour, je suis comme, ah, je regrette que j'ai pas dit telle affaire. J'ai pensé à des jokes plus tard. Hein.
On fait tout le temps ça. Moi, dans la chanter, frapper le char, là, j'aurais dû mettre ma main sur le char puis le frapper le char pour rentrer dans le thème. Parce qu'on a eu une pénalité pareille pour cette impro-là, la chanter, la première qu'on avait faite avec les Favourites, ouais.
Oui, pour un impro, on ferait ça, mais au
Ouais.
théâtre, si on suit notre texte, on ne serait pas en train de penser, ah, oh, j'aurais dû ajouter une joke. On n'est pas
Ouais.
normalement en train de penser à ça
Non,
parce que le
non.
texte est fixe, mais il y a beaucoup de ce théâtre-là. Non, c'est pas si fixe que ça, finalement.
C'est pas fixe. Tu as raison là-dessus. Puis j'ai comme découvert un petit peu la raison, le raisonnement en arrière de pourquoi que le théâtre, c'est pas nécessairement fixe. Puis il y a de l'impro là-dedans, dans la livraison des choses. Puis c'était lors, on avait été présenté de la part de Molière au Festival du théâtre communautaire en Acadie, à Caraquet. On a livré une très belle performance. On s'est fait dire par les juges qu'ils nous trouvaient meilleurs que des professionnels. C'est comme, OK. Mais je m'en rappelle, il y a certains commentaires qui disaient, ben vous autres, vous jouez Puis vous n'êtes pas en compétition pour qui est le meilleur. C'est juste pour vous faire du fun ensemble. C'est agréable. Vous vous supportez un l'autre. Puis c'est pas comme, tu sais, du professionnel, que quelqu'un essaie de prendre plus de place qu'un autre pour se démontrer, pour avoir plus de valeur ou quoi que ce soit. Puis moi, j'ai trouvé ça triste un peu pour les gens qui vivent dans le professionnel. J'espère que c'est pas ça dans tous les cas. J'imagine qu'il y a sûrement des troupes qui sont plus unies que d'autres.
Tout le monde peut pas être l'avare.
Non.
Faut que quelqu'un joue la flèche. C'est faut que
c'est ça.
Quelqu'un, faut qu'il y ait des
Oui.
différents.
Exactement. On était là, puis il y avait des petits ateliers qui se passaient entre-temps. Puis je vois, c'est un atelier sur un petit peu comment livrer un texte, OK? Puis on me donne un livre, puis on me dit, OK, lis la première phrase. OK, je suis dans un chalet au bord du lac. Elle dit, OK, arrête, arrête. Va pas plus loin. Là, maintenant, tu vas imaginer ton chalet. À quoi ressemble le chalet? Ben, c'est un chalet de bois rond. OK, c'est quand est-ce dans la journée? On est le matin, le soleil se lève, la lumière est belle. Quelle saison qu'on est? C'est l'automne. Tout est coloré, la forêt est vraiment vibrante de rouge, d'orange, de jaune. Est-ce que y a un vent? Est-ce que non, c'est calme, c'est beau. OK, relis ton texte, puis t'es là, tu vois tout ça. Je suis sur le bord du lac, au chalet. J'ai
Ouais,
continué à
t'es
lire,
sur le
puis
bord de Taillon au cinquième étage.
ouais, voilà. Le non-verbal que j'avais appris avec Ghislain Tachereau, là, je venais de l'apprendre avec la façon de dire des choses. Tu peux pas dire de quoi, juste dire, OK, ah, je suis là, tu sais, je traverse le chemin, puis je m'en vais au magasin. C'est donc bien plat. Tu sais, si tu apportes un élément de je me sens là, oui, ce que je suis, j'identifie dans quel temps de la journée que je suis, à quoi ressemble, il mouille-tu, il mouille pas. Toutes ces affaires-là, quand tu rentres dans ta scène, pour moi, c'est ça aujourd'hui. C'est genre dans une scène, quand je dis jouer des choses, quand je joue vraiment la porte, ben la porte a une couleur. C'est pas juste une porte parce que c'est une porte imaginaire. Si je la vois rouge ou brune, ben c'est parce que là, je l'ai identifiée déjà dans ma tête. Puis elle a déjà beaucoup plus de caractère pour moi, cette porte-là, que juste, OK, il y a une porte, fou, la roue, puis là. Non. Même la poignée de la porte va avoir une allure dans ma tête. Tu sais, ça va créer quelque chose que quand je prends la poignée, on dirait qu'il y a de l'histoire sur la poignée. J'imagine peut-être trop loin. Mais pour moi, c'est ça le sentiment.
Non, mais ça enrichit vraiment les impros, ça aussi, tu sais, comme, tu peux toujours dire quand quelqu'un joue de l'impro dans un néant vide, tu sais, ils sont pas vraiment dans un espace, ils sont juste debout là, en train de parler à quelqu'un, même si c'est pas, ça aurait pas été important de savoir nécessairement où est-ce qu'ils sont. Je pense que tu le sens dans le personnage, tu le sens dans l'histoire, qu'il y a pas, il y a trop de questions qui n'ont pas été répondues. Parce que je pense que c'est correct en impro de répondre des questions à mesure. Mais je pense que si tu rentres dans un impro avec aucune question de répondu, des fois, tu peux juste donner quelque chose d'un peu vide. Puis je pense que cette réflexion-là est un bel outil pour les improvisateurs comme pour le monde du théâtre communautaire parce que ça te force à rendre ton univers vrai, puis à enrichir ton environnement, puis à définir comment tu interagis avec ces espaces-là.
Exactement. Puis, tu sais, il y a des choses que tu ressens même dans le texte au complet, dans le sens que s'il y a une ambiance, puis ça, je vais vous ramener à une pièce de théâtre qui s'appelle Geneviève et le vendeur. Moi, je jouais le vendeur, je vendais des parfums, de la lingerie. J'aimais pas ce que je vendais. Okay? J'haïssais carrément de la lingerie puis des parfums. Pour moi, ça faisait pas de sens qu'un homme vende ça, là. Puis, je rentrais chez des gens, Geneviève, qui s'était joué par Sylvie Savoie, puis Marc Douaron, qui jouait le cultivateur. Geneviève, on va établir le fait que Geneviève voulait faire d'autres choses, elle trouvait ça plate d'être à la maison, puis son mari était comme redondant, puis là, moi, j'entre tout d'un coup, ses yeux allument, mais elle a une attirance vers moi, puis elle démontre de plus en plus au fur et à mesure que le texte avance. Puis moi, j'exprime le fait que je veux pas vraiment être vendeur de lingerie puis de parfum, je veux vendre des balais, c'est cocasse, là, mais je veux vendre des balais. Puis, à un moment donné, dans la conversation avec elle, j'ai le balai sur le long de mon corps qui parle de bas, puis elle attend de motiver au maximum. Puis là, moi, je dis, je sens le moral me remonter, mais le balai, il monte en même temps à côté de moi de façon parallèle, comme si il y a un membre de mon corps qui monte en même temps parce qu'elle est en train de venir me chercher dans mes émotions. Puis la foule remarque le balai qui monte, puis elle a réagi un petit peu gênée, un petit peu comme, ouh, agréablement gênée, je dirais, du fait que moi, je suis excité par la façon qu'elle s'est adressée à moi. Puis il y a pas, c'est pas écrit dans le texte en une part, ça, là. Mais ça l'a apporté son petit charme dans le moment puisque ce balai monte. Puis là, moi, je fais semblant de regarder le balai, puis je me rends compte, ouh, OK, puis là, je baisse le balai comme si il me dérange, puis je veux l'enlever parce que je suis embarrassé par le fait que le balai montait. Un petit quelque chose qui n'était pas écrit, puis que j'ai juste pensé spontanément que ce serait drôle de créer ce visuel-là.
Que vous utilisez de l'intro dans vos répètes comme ça, comme pour comme justement développer des éléments d'histoire comme ça ou comme définir vos personnages. Est-ce que ça a sa place en pratique?
Oui, ben, le théâtre communautaire, on est moins rigide. OK? On n'est pas obligé de présenter de quoi, tel qu'écrit, tel que fait. Si on sent que, oh, ça serait bien de juste faire telle chose-là parce que ça rend tout plus vrai.
Dans le moment, là, tu vois, tu parles sur scène devant public.
Dans les deux situations, ouais. Des fois, pendant qu'on pratique, on se rend compte que, oh, si je fais ça de même, il me semble que un être humain, c'est comme que quand tu rentres dans une salle, puis tout le monde reste assis, c'est pas vrai. Tu sais, quelqu'un rentre chez vous, là, ben, tu te lèves debout, tu vas l'accueillir, tu sais. Puis dans l'impro, dans la pièce de théâtre, c'est pas écrit, ben, la personne se lève debout pour accueillir. Non, tu es assis dans la chaise là-bas, puis l'autre rentre. Faut que ça paraisse plus vrai, faut que tu fasses comme dans la vraie vie. Puis à ce moment-là, ben, la foule, ben, OK, ah, il s'est levé comme si moi je suis à genoux.
Alors, si tu restes assis, tu es en train d'impliquer que cette personne est tout le temps rendu chez vous.
Et
Ça crée une familiarité qui est peut-être pas dans le texte.
oui, justement, ça fait que ces petites nuances-là, qui sont pas écrites dans aucun texte, mais que t'amènes, soit pendant les pratiques que tu te rends compte que ça serait, c'est plus logique de faire ça, parce que c'est plus vrai. Ben à ce moment-là, ça change l'allure de la livraison de qu'est-ce que tu fais. C'est comme, il me semble que tu passes à côté de ça, tu viens d'oublier que dans la vraie vie, il y a quand même des choses qui sont incontournables, je pense. Mais comment expliquer? Comment dire que on perçoit ça? Sur le moment, on se rend compte que c'est là. Puis des fois, comme je disais, là, que on fait trois représentations en théâtre. À chaque fois, c'est jamais pareil. Ben, c'est vrai, ça, c'est jamais pareil. Des fois, puis encore là, dans le théâtre, un des éléments qu'on m'a répété, c'est que si les gens vont rire, tu continues pas à parler pendant qu'ils rient. Parce que là, ils vont s'arrêter de rire parce qu'ils veulent entendre absolument que ce que tu as à dire. Tu casses l'ambiance de la réaction de la foule. Fait que tu les laisses rire, puis tu reprends tant qu'ils ont fini. Même si qu'ils rient pendant une demi-minute, tu les laisses rire. Une fois que ça s'est calmé, là, tu commence à parler parce qu'ils veulent entendre. Si t'as fait l'erreur de parler pendant qu'ils rient, ils vont arrêter de rire pour le reste du spectacle. Puis toi, ça casse ton ambiance aussi parce que peuvent pas la foule, quand ils réagissent, ils te soulèvent.
Une des choses que tu as une couple de collègues de la Lima qui posent des questions semblables, Michel Hédoux, Vicky Lavoie, et qui parlent de pièces improvisées. Tu as déjà pensé à mélanger les deux, OK? Ça fait 20 ans, peut-être, à peu près 20 ans, au Nouveau-Brunswick, que différents joueurs, différentes troupes, différentes ligues développent ce que nous autres, on appelle l'impro-théâtre,
Oui.
l'impro longue forme, c'est-à-dire la pièce d'un acte ou de trois actes qui est complètement improvisée, qui utilise des cues du public en début, qui a peut-être des costumes, peut-être du décor, peut-être pas. Il y a eu différentes variations, puis il y a des gens qui sont plus ou moins experts dans ces choses-là. Puis je dirais que ça fait comme 20 ans qu'au Nouveau-Brunswick, on développe ça, c'est joué relativement souvent dans des spectacles. Mais c'est-tu quelque chose que tu as déjà fait, puis qu'on n'a pas encore mentionné, ou qui t'intéresserait, ou que, en tout cas.
Certainement que ça m'intéresse, oui, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Encore là, quand tu as l'amour de la créativité, puis de créer un contexte pour apporter ça, il y a souvent des choses magiques puis éphémères, comme on dit, qui vont arriver, qui sont pas planifiées, mais qui sont vraiment magiques. La magie du théâtre, je pense que ça se vit dans ces moments-là, puisque tu t'as pas attendu à quelque chose, puis que, wow! OK, c'était bon, ça, c'était spécial. Oui, ce genre de montage-là, ça donne beaucoup de place pour des choses de même. Je n'ai jamais fait. Peut-être juste, ça a juste pas donné, là. Mais oui, ça serait quelque chose que je pense que je trouverais vraiment agréable parce que le potentiel là-dedans est énorme. Costume, pas costume, n'importe quoi. Peut-être de quoi que j'ai fait de semblable un petit peu. Souvenir du berceau. C'est Albert Roy qui a écrit, ça se trouve sur Internet en intégral. Tu peux le voir au complet, c'est sous le titre Souvenir du berceau 4K 2.0. Alors, tu me vois, moi, tu vois Michel Hédoux, tu vois d'autres acteurs, puis c'est un recueil de poésie qui relate des choses de la région du berceau du Madawaska, de la région d'Edmundston, de la région de Saint-Basile. Puis, oui, on a des costumes, il y a des parties improvisées. Entre autres, il y a un moment donné que si ça vous tente de voir, à 58 minutes 34 secondes, OK, dans l'émission de Souvenirs du berceau 4K 2.0, je parle de la rue Canada. J'ai juste une échelle. Puis, je peins tout simplement avec les textes de poésie, la rue Canada. Je grimpe sur l'échelle, puis je parle des magasins qu'il y avait là-dessus, puis là, je dessine les noms des magasins. C'est complètement improvisé parce que tous les gestes que je fais, c'est comme j'aurais pu me planter là puis lire le texte. Mais j'ai l'image, je le rends tangible à moi, comme si je le voyais. Puis là, je bouge sur la scène. comme si je suis là à un moment donné, puis je vis les émotions de l'époque, de qu'est-ce que Starry Canada-là avait apporté à la région, puis qu'est-ce que les gens vivaient par rapport à ça. Les gens se déplaçaient pour se rendre là parce que c'était la place à aller.
Tout peut être un thème. En fait, là, le texte est le thème pour la performance physique, ainsi de suite. C'est pas si loin de partir de zéro ou avec des prompts du public, par exemple. Tout ça, ça reste un thème, puis ça dépend comment longtemps tu joues. Si tu joues assez longtemps, c'est rendu de l'impro-théâtre. Isabelle, mets-nous à Stéphane une feuille.
OK, parfait.
Essaye d'y trouver des opportunités là pour tenter ce jeu-là.
Puis on encourage aussi les ligues de s'essayer parce que l'impro-théâtre, ça prend pas autant que souvent on pense que ça prend. Tu sais, c'est certain que c'est beaucoup plus lourd en matériel puis des affaires, si tu veux, que comme un match ou un show de défi ou quelque chose comme ça. Tu as des petits éléments de décor et des petits éléments de costume. C'est vraiment tout ce que ça prend. Après ça, c'est juste décider sur une prémisse puis choisir comment le public va contribuer à tout ça. C'est ça se fait, puis c'est abordable, puis c'est le fun. Puis même moi, j'encourage beaucoup de ligues de commencer avec quelque chose qui est plus une petite bouchée. Fais une impro de 30 minutes. C'est une longue histoire. Puis c'est juste pour tester les eaux, voir comment que le monde trouve ça, comment est-ce que le monde aime ça. C'est super le fun, mais j'ai mis ton nom sur une liste, Stéphane.
OK.
Tu as trouvé des opportunités, là, utiliser tes
Ouais.
talents, tout ce que tu as appris à travers le théâtre communautaire aussi. Autre question ici que je vois, Mathieu Chalifoux qui demande, qu'est-ce que tu penses qui est la plus grande différence entre un public d'improvisation et un public de théâtre communautaire? Intriguant.
Il y a vraiment une différence
Y a-tu?
pour le
Non.
public, mais il n'y a pas de différence pour moi. Quand moi je suis sur scène, puis on joue avec une autre équipe, je joue pas contre l'autre équipe, je joue avec. On livre ensemble quelque chose au public. Mais le public des autres, ils nous voient en compétition puis ils vont voter pour nous autres. Alors, ils vont essayer d'évaluer qui a fait la meilleure performance des deux. Fait que ça, c'est du point de vue public. Fait qu'ils sont à l'écoute de la performance puis des différences entre les deux. Tandis qu'au théâtre, on veut juste suivre l'histoire. On veut s'accrocher aux personnages. On veut voir c'est quoi leur vécu, qu'est-ce qu'ils nous apportent, puis leur interaction. On cherche pas à choisir, à décider qui a fait la meilleure performance. On se laisse apporter, tout simplement.
Y a-tu bien une similarité cependant? Parce que souvent on s'oppose au théâtre professionnel, puis on dit on s'oppose, puis on parle de théâtre communautaire puis d'impro, mais évidemment, moi dans ma croyance, l'improvisation c'est du théâtre, théâtre spontané, mais c'est une forme de théâtre à part entière qui fait partie de la grande expérience théâtrale.
En Nouveau-Brunswick, R&B nous considère du théâtre.
C'est ça. On a convaincu le gouvernement de cette philosophie. Donc, mais ce qu'on dit souvent du théâtre, de comme quand tu regardes quelque chose qui est de l'impro par rapport à quelque chose qu'un humoriste ferait, que du théâtre ferait parce qu'il y a un texte, le public est plus permissif. Le public pardonne plus en impro. Mais y a-tu pas un peu ça dans le théâtre communautaire aussi? Justement parce que il y a une entente entre le public et la troupe que ça n'a pas été fait sur les gros budgets par des, tu sais, là,
Voilà.
etc. On pardonne, fait qu'on aime ça, même si tu me disais, ceci, c'est comme un film professionnel, on dirait non.
Justement, on pardonne plus facilement parce que les attentes sont moins élevées. On s'en va là, on se dit, ben, on va rire un peu, on s'attend pas que c'est des professionnels, mais ils ont l'habitude de quand même nous apporter quelque chose d'intéressant. Fait qu'ils se font pas d'attentes. Ils savent que on est communautaire, on est local, on pratique comme ça, quand on a du temps, on n'est pas des gens qui sont formés dans le théâtre, on n'est pas des gens, on a juste une passion de ça. Puis, ben, il faut dire que il y en a qui sont, ils ont comme, des fois, sont nés avec un talent, là, comme tu prends Viola Légère, ben, elle n'a pas fait d'école de théâtre, mais elle avait un talent. Puis, c'est pas donné à tout le monde, ça. Puis, je dis pas que j'ai ça, là, moi, parce que moi, c'était le contraire, je trouvais tout le monde plus talentueux que moi. Puis, moi, ça m'a pris bien du temps avant de monter la pente, puis de comprendre certaines notions. Comment livrer l'information? Puis il y avait des choses de base que je savais pas du tout. Puis je me rappelle, notre metteur en scène, il disait, faut que tu parles fort, faut que tu parles à la dernière personne dans la salle à chaque fois que tu t'exprimes. Sinon, s'ils t'entendent pas, ils vont couder l'autre à côté, c'est quoi qu'elle dit? Puis en disant ça, ben ils partent d'un autre bout de l'histoire. Ça fait, c'est important. L'autre chose, faut que tu articules. Si tu n'articules pas puis ils t'ont pas compris, ben encore là, écoute de l'autre à côté, c'est quoi qu'elle dit? Puis il manque encore un autre bout de l'histoire. Alors, faut que tu prennes ton temps puis tu dises ton texte comme il faut.
Mais c'est vrai en impro aussi, right?
On parle trop vite des fois. On parle beaucoup trop
Ah
vite
ouais.
puis le monde ne comprenne pas ce qu'on a dit. Puis on manquait ça puis c'est pas bon puis sur scène on s'est peut-être tout compris. Mais si t'as pas parlé assez fort, t'as pas assez articulé. L'autre en arrière, ben il a manqué l'histoire puis c'est comme plate. Ces deux aspects-là sont de base. Puis après ça, l'autre chose aussi, c'est de garder carré devant la foule. Si tu es à 45 degrés, tu es dos à des gens, puis si ta face va vers l'arrière, le son de ta voix va vers l'arrière, ils t'entendent plus. Fait que ces trois éléments-là font en sorte que ça c'est en théâtre ou en impro, c'est vraiment important que tu gardes ça en tête à chaque fois que tu embarques sur la scène. Parce que tu es sur la scène pourquoi? Tu es sur la scène parce que tu veux livrer une histoire, tu veux amener la foule à vivre de quoi d'intéressant, une histoire inhabituelle, tu veux les captiver, tu veux les emmener ailleurs qu'ils décrochent de leur journée. Puis ça, faut que tu aies un amour pour la foule. Comme moi, comme spectateur, quand je vois les autres, j'aime entendre les gens, qu'est-ce qu'ils disent, j'aime que ça soit facile d'entendre, puis ça qui se vire dos à moi, puis je comprends pas. Puis des fois, lire sur les lèvres, ça aide, ben j'ai manqué un bout de texte, puis ah, j'aurais aimé entendre, puis là, tout le monde rit, puis j'ai manqué. Ah, je sais pas c'est quoi qu'elle dit. Ça me frustre. Vous me connaissez parce que vous savez, j'ai un amour pour la foule à chaque fois que j'embarque sur la scène. J'envoie ma signature, je donne un baiser à ma main, je coupe le baiser en 1000 morceaux, puis je le souffle partout dans la foule. Parce que pour moi, la foule est vraiment le groupe le plus important. C'est pas moi. Quand j'embarque sur scène, c'est eux. Ce petit geste-là me met dans le contexte à dire, ben, rappelle-toi, ils ont besoin de t'entendre, ils ont besoin que ça soit clair. Tu ne te vires pas de dos aux autres parce qu'ils m'ont parlé. Imagine-toi, tu es assis là, puis tu essaies de comprendre puis entendre quelque chose. C'est vraiment, le théâtre m'a apporté cette notion-là que j'avais aucunement saisi lorsque je jouais de l'impro à l'université, puis avant de vraiment faire du théâtre pour la peine.
Penses-tu que le théâtre communautaire est plus facile à vendre à un public que l'impro? Parce que c'est une des choses que tu racontais l'histoire tantôt de, OK, on a fait jouer les jeunes, puis là, tous les parents sont venus, toute la parenté est venue. Je sais que je parlais avec Dave d'ailleurs, qu'il n'aurait pas fallu que le fire marshal rentre dans la pièce. Il y
Non,
a
ça
trop de
fait beaucoup de
monde.
monde.
Il y a trop de monde pour la
Oui.
salle, tu sais, tellement c'était populaire. Mais dans le fond, ils venaient voir leurs enfants. Ils venaient
Oui.
voir leur parenté. L'impro, ça donne que c'était ça le contexte. En théâtre communautaire, entre les fois que moi j'ai été voir des choses, souvent, c'est pas de la parenté, pas seulement ça, mais c'est, oh, on connaît ces personnes-là. Il y a souvent, chaque troupe a une personne, là, qui est comme le bouffon de la ville, que tout le monde connaît, qui est vraiment drôle, puis le fun. Puis c'est dans chaque troupe, il y a cette personne-là qui joue le personnage central, qui pogne tous les rires, qui est populaire parmi le village, là. Puis le village vient pour voir cette personne-là.
Oui.
Donc aller voir du monde qu'on connaît semble être une grosse composante dans les deux exemples.
Oui, ça y est. C'est vraiment une grosse composante. Puis non seulement le fait de voir des gens qu'on connaît, c'est le fait que même si on n'a pas des grosses attentes, on s'en va là parce qu'on va rire. On va rire, on va décrocher, on va s'emmener dans un autre monde pendant une courte période de temps. C'est pas comme aller au théâtre, voir un film au cinéma. Le film au cinéma, c'est pas spontané, il n'y a pas de marge d'erreur. C'est tout programmé d'avance, c'est tout. S'il y a des erreurs, ils changent, ils modifient comme, tu sais, si nous autres, on bafouille sur du texte, on peut le couper puis pas le diffuser.
On a le produit final. Puis c'est rare qu'il y ait quelqu'un qu'on connaît
Ouais.
personnellement dans le groupe.
Mais c'est ça, quand tu fais du théâtre ou de l'impro, il n'y a pas de deuxième chance, là. C'est tout de suite, c'est ça que c'est. C'est la livraison. Puis il y a un petit peu quelque chose de ça là-dedans aussi que parce que c'est live, ça a cette ambiance-là, cette magie du théâtre-là qui est comme tu peux pas vivre ça de la même manière d'aller voir un bon film. Il y a des bons films, mais la magie du théâtre ou de l'impro, il y a cette partie éphémère-là encore une fois.
Oui, parce que quand ce que tu n'as pas été voir une pièce, professionnelle ou communautaire, c'est pas important, ou étudiante, si tu n'as pas été voir la pièce, puis d'autres mondes ont été voir la pièce, ils te parlent de la pièce, mais toi, tu la verras pas.
Comme manquer le
Non, c'est
bateau.
ça.
Ouais.
Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le réaction du public qui est un petit peu imprévu. L'impro a beaucoup, beaucoup de on sait pas ce qu'on fait. Il y a une joie là-dedans pour le public d'être assis là, puis de faire comme oh. Il se voit là. Je pense que le théâtre communautaire a une touche de ça aussi. Parce que comme tu
Oui.
disais, comme le mot n'a pas passé des pleines journées de travail à répéter pendant 4 mois de temps, là, comme c'est OK que c'est pas parfait, mais je pense que c'est même un attrait, pareil comme l'impro, il y a un attrait de l'imperfection d'un produit final.
Oui.
J'ai aussi l'impression, moi, que le public d'impro a tendance à souvent être, à cause que c'est plus une niche. C'est moins bien connu, il y a plus de règlements, puis petites choses, puis comment ça marche, qu'on crée des publics qui sont un peu plus experts dans ce sorte de spectacle-là, parce qu'ils sont obligés d'évoluer, right? Faut qu'ils votent, puis
Oui,
tandis qu'au
oui.
théâtre communautaire, nous autres, on a eu une expérience, moi puis Isabelle, il y a des années passées, que je vois assez, juste par son sourire, je sais qu'elle sait qu'est-ce que je veux dire. On est allé voir une pièce Justement parce qu'on avait une amie en impro qui jouait dans l'équipe à Isabelle aux Zèbres d'Or, donc René maintenant Perron. Donc, il était dans cette pièce-là. On est allé voir cette pièce-là. C'est en village, là. Elle fait partie de la troupe. On va voir cette pièce aller dedans. C'est pas elle la grosse star. Il y a quelqu'un, là, évidemment, il y a la grosse star. Pour nous autres, c'était hallucinant, si on veut, parce qu'on était des habitués de théâtre. Mais la pièce, en dedans de la pièce, il y avait un personnage qui expliquait comment ça marche une pièce, qui expliquait au public qu'il allait avoir un premier acte, puis là, on allait. Il allait y avoir une pause. Puis pendant la pause, là, regarde, on va changer le décor. Soyez pas mêlés, là. Quand vous allez arriver, ça va être plus tard. Puis elle nous a donné un peu comme un plan de qu'est-ce qui allait se passer, ou en tout cas, c'était quoi les trois actes. Puis nous autres, on était comme, ben voyons donc, c'est évident. Mais faut se mettre dans le contexte de ce village-là qui va avoir une pièce parce qu'ils connaissent des gens dans la pièce, mais ils n'ont peut-être pas d'expérience de théâtre du tout. Puis c'est un peu comme ça qu'ils l'ont approché. Pour nous autres, c'était.
Évident, ouais.
Ben, c'est absurde un peu, tu sais.
Oui.
Mais c'est ce genre-là. C'est comme si le monde va pour. Tout le monde est capable de comprendre une histoire racontée sur un stage, là. Il n'y a pas toutes les règles d'impro. Fait que le fait qu'il y a toutes les petites règles d'impro pour l'impro match, les gens qui vont voir ça sont peut-être un petit peu plus. Ils vont être soit complètement mêlés la première fois qu'ils vont voir un match, ou ils connaissent déjà assez comment ça marche, tout ça. Fait que ça crée comme des différentes expertises dans le public, si on veut, un niveau d'expertise, possiblement.
Ben, je pense que le public général qui n'a pas trop vu d'impro, qui connaît ça juste un tout petit peu, des fois a peur des spectacles, de juste y aller, parce qu'ils ont peur que quelqu'un les demande d'improviser.
Ah ouais, c'est weird ça.
Ça, c'est de quoi vraiment comment eu à sensibiliser juste des comme gens dans la vie. Mais non, c'est OK, là. Tu peux juste être assis là puis enjoyer le show, là. Il n'y a personne qui va te demander de venir jouer, là. Puis je sais pas si c'est juste qu'il y a de l'impro télévisé qui a fait appel au public, qui demandait du stuff, qui demandait au monde de monter sur scène, puis ça a juste rentré dans le genre de zeitgeist
C'est un show de
d'impro dans la
magie.
tête de beaucoup de monde. Il y a juste cette peur-là que je pense pas que le théâtre. Il y a personne qui pense que tu vas rentrer dans le théâtre communautaire puis quelqu'un va te demander de jouer un rôle.
Non, non, justement, tu sais que tu vas au théâtre communautaire quand tu vas juste t'asseoir, tu vas rire quand ça te tente de rire, puis c'est tout. Puis en parlant de rire, moi, ça me rappelle, évidemment, on jouait trois spectacles le vendredi soir, le samedi, puis le dimanche après-midi. Puis évidemment, les foules qui venaient nous voir, c'était pas toujours pareil. Puis le vendredi soir, ben souvent, les gens ont pris un verre, c'était un petit peu plus pompette, ils riaient plus facilement. On avait une belle ambiance puis on arrivait, puis on jouait dimanche après-midi, puis bon, c'était pas pareil. On se dit, hey, j'ai fait la même joke que le monde a ri pendant 30 secondes, vendredi, puis là, ben, t'entendais les criquets, là. C'est comme, quoi, c'est ça? Comment ça? Tu t'attends à ça. Faut-tu t'attendre que l'ambiance de la foule, la dynamique, le temps que tu joues, le fait que c'est pas pareil, ça veut pas dire que t'as livré moins bien ou mieux ou ça n'a pas rapport. C'est remarquable quand même comment est-ce que les foules, quand ils viennent, il y a une différente vibe de la foule aussi. T'sais, ils viennent avec différentes choses en tête. Puis je suis pas sûr que les gens qui arrivent le vendredi soir ont la même chose en tête que les gens qui arrivent le dimanche après-midi. Pour une raison quelconque, c'est remarquable pareil.
Ben, c'est comme jouer à un tournoi là, à 9 h du matin versus un soir. Le moins est endormi, le moins est. Tu sais, des fois, les vendredis soirs, les samedis soirs, le monde est tellement fatigué qu'ils ont le rire facile aussi. Ils ont le goût d'être un petit peu plus loosey-goosey.
Question de fun à Michel Ledoux ici. Est-ce qu'il y a des projets, pièces de théâtre que tu aimerais jouer? Tu en as fait pas mal et à la présidence, j'imagine que tu as quand même un œil sur un peu diriger quelle pièce vous allez faire la prochaine, tout ça. Mais y a-tu quelque chose qui serait comme, oh wow, j'aimerais pouvoir faire celle-là ou ce genre-là ou comme tu veux?
En fait, plus évolué que le théâtre, j'ai été figurant dans une série québécoise qui s'appelle Le Siège. Ça a tourné au Morton Pub à Moncton. Ça s'est fait dans une journée où on répétait plusieurs différentes scènes, puis c'était filmé avec tout le plateau, l'équipage, des gens qui filmaient. Puis c'était la première fois que je vivais d'être sur un plateau, de voir comment les choses se faisaient. Comme figurant, le non-verbal que tu avais à livrer là était encore, tu jouais du théâtre, pareil, où tu jouais un rôle quand même. Le fait de faire ça, moi, c'est comme, wow, OK, je trippe. On aurait pu une scène 27 fois, jusqu'à je sortais de la salle de bain, je m'assise avec le monde, puis tu parles, mais tu dis pas un mot, là. C'est comme, c'est un impro sans parole, sans, tu peux pas bruter non plus, là, sans, mais faut que tu refasses la même histoire parce que si l'angle change, faut que ça suive. que ça fasse du sens. Évidemment, il y a beaucoup de ces scènes-là, je n'ai jamais fait de la télévision, là, mais ça arrive souvent. Cette partie-là, un petit peu plus, un cran plus élevé, m'a intrigué beaucoup. Puis, pas longtemps passé, il y a deux Belges qui ont venu s'installer ici à Edmundston. Ils ont décidé de monter un film. C'est des cinéastes. Ils se sont installés à Montréal, mais ils n'aimaient pas ça. Ils ont acheté pas grand, c'était trop frais. Puis ils sont arrivés à Edmundston. Puis leurs enfants ont embarqué dans la troupe de théâtre locale. Ils ont bien aimé ça. Ils ont décidé de caster pour. Il y avait des jeunes rôles dans le film, puis ils ont casté, puis ils ont trouvé des jeunes avec pas mal de talent. Fait qu'ils ont décidé de continuer leur aventure dans la région ici, puis caster pour Lennon the Paper Doll. Tu vas sur la ville d'Edmundston, tu vas voir qu'ils ont affiché ça. Puis ils veulent faire un long métrage, un film pour le cinéma. Puis moi, j'étais embarqué dans le casting, j'étais allé. Puis c'était pour un jeune écolo. En bout de ligne, ils m'ont approché par la suite. Ils m'ont rencontré plus tard, puis ils m'ont dit, bon, on aimerait te donner un rôle avec beaucoup plus de textes pour jouer. En fait, un restaurateur qui accueille des gens dans son restaurant, puis t'as une scène jusque ça se déroule là. Après ça, tu retournes comme 10 ans dans le passé, puis j'ai une autre scène, un autre événement qui se passe, et on revient, puis encore d'autres scènes. Puis c'est un film, c'est pas mal intéressant, Lennon the Paper Doll. C'est basé sur des faits réels d'une relation entre la mère et sa fille, mais il y a un côté fantastique. Puis je veux pas trop dévoiler parce que garder un secret. Ça, c'est quelque chose que pour moi, ça me passionne beaucoup d'être dans un film. Ça semble quand même avoir un potentiel à ce moment-ci. Je sais pas si ça va se réaliser parce qu'on sait bien, on va filmer quelque chose puis en bout de ligne, on peut tout couper parce qu'on a fait là-dedans puis on nous verra jamais du tout. Mais d'être sur le plateau, d'avoir du texte à dire, le fait de faire ça, c'est quand même intéressant. L'autre chose, l'autre défi que j'étais pas sûr que j'allais faire, c'est un musical. Puis je n'ai fait un. Musical, c'est Once Upon a December, donc c'est Anastasia. Puis moi, je jouais le rôle de Vlad. Il était le rôle des trois personnages principaux. Évidemment, je devais chanter aussi. Puis c'est un défi parce que, tu sais, faire une pièce de théâtre normale, c'est correct, mais de chanter, puis au niveau des talents des chanteurs qu'il y avait là, je n'étais pas sûr de pouvoir chanter à même leur niveau. Puis en bout de ligne, j'ai fait une bonne livraison, une bonne performance. Once Upon a December a été une révélation pour moi de découvrir que j'étais capable de faire des musicals, puis de bien chanter, puis encore là, jouer tout le théâtre qu'on doit faire en même temps. Fait que ça, c'est un défi. Sylvie Carrière-Senoux, qui, elle, a fait plein de musicals dans les écoles avec les jeunes, elle a énormément de talent, une capacité de faire la mise en scène pour ça. C'était brillant qu'est-ce qu'elle a monté. Puis la façon que ça a été livré aussi, on l'a fait dans la salle Louis Halebelle. Le décor en arrière, c'était projeté avec un projecteur. Alors, si on changeait de pays, ben le projecteur nous emmenait dans le pays. Si on allait à une gare pour embarquer sur le train, ben, le décor en arrière, c'était aussi la gare. Juste ça, faisant en sorte que ça simplifiait. Tu sais, de nous emmener à certaines places parce qu'on partait de la Russie. On allait à la gare, on allait en France, à Paris, puis on était aussi dans des palais avec différentes chambres, puis c'était simple de juste présenter un décor différent en arrière. Tant qu'on était sur le train, mais il y avait des choses, des mobiles qu'on bougeait, puis ça pouvait simuler les sièges sur le train, puis c'était excellent. Des voix extraordinaires, j'étais peut-être la moins bonne des voix de la gang, mais ça allait bien avec mon personnage.
Ça, t'as-tu donné confiance pour les chanter en impro, là?
Oui, carrément, là, j'ai beaucoup moins de doutes que je peux livrer une chantée. Puis, mais la chantée en impro, c'est un style d'impro que tu peux pas nécessairement rentrer puis juste dire, OK, je vais chanter. Il y a une petite préparation mentale, faut que tu aies un air dans ta tête. Faut que tu aies une toune qui joue, faut que tu aies un beat. Faut que ça sonne bien. Parce que j'ai fait ça des fois, j'ai rentré, j'avais pas de beat dans la tête, puis oh,
Ah,
c'est.
parce qu'au théâtre, il y a une musique qui joue, c'est ça,
Ouais,
là.
ça, ouais, t'as déjà. Mais en impro, t'as pas la musique qui joue. Fait que faut que tu l'aies dans ta tête. T'sais, ça, c'est un des éléments que je m'ai rendu compte que, ouais, ça fait une différence de rentrer avec un beat, puis de suivre le beat pendant que tu joues, parce que ça tend pas. C'est plus facile, me semble. Puis c'est sûr que c'est un défi quand c'est une mix, parce que les autres vont avoir leur propre beat,
C'est ça.
ils vont avoir leur propre tune, ils vont changer, ils vont mixer ça un peu. Faut que tu donnes de la place à ça.
Il y a quelqu'un dans la gang là, qui a demandé la question qui tue.
OK.
Hein? La question qui tue.
Question qui tue.
Michel Hédoux qui demande, qu'est-ce que tu préfères, théâtre ou impro?
Oh, là, tu vas faire du drama, là.
Ouais.
Évidemment, tu es sur un podcast d'impro, mais censure-toi pas. Honnêtement, qu'est-ce que tu préfères?
Honnêtement, je pense que mon cœur va à l'impro.
Vraiment? Oh!
Oui. Absolument.
Une surprise.
Une surprise, autant de théâtre que j'ai fait, autant de choses que j'ai appris au théâtre. Il y a une partie dans moi qui veut créer des choses, qui est créatif. Puis tu peux emporter ça en non-verbal ou dans ton personnage, mais tu peux pas changer ton texte nécessairement dans le théâtre. Mais en impro, t'as pas nécessairement autre que le thème puis la catégorie. C'est les seules limites qui te sont imposées et t'es libre pour quoi que ce soit d'autre. Et quand tu as envie de créer des choses, puis de co-créer des choses, parce que là, tu invites l'autre à te présenter son histoire, puis t'embarques dans son histoire, puis faut pas oublier qu'on embarque la foule dans notre histoire. C'est parce que c'est là la magie du théâtre ou de la présentation qu'on a. Oui, on peut jouer entre nous autres, mais embarque la foule.
Et donc, la vraie dernière question que je poserais, je pense que la réponse va être oui, mais est-ce que prendre des opportunités de théâtre communautaire, c'est quelque chose que tu recommandes à des joueurs d'impro?
Oui. Je recommande fortement, même s'ils sont obligés d'apprendre par cœur un volume de texte et mettre du temps à échanger et habituer des autres joueurs à prendre leur cue, à savoir quand une phrase finit, le mot qui finit, c'est leur tour à commencer. Cette habitude-là, l'échange qui se fait, ça crée des bonnes habitudes, je pense. Ça développe ton écoute aussi de l'autre, puis d'apprendre à être généreux envers l'autre, qui en impro, on a tous besoin de ça. On a besoin d'être à l'écoute, on a besoin d'être généreux. Je pense que ça augmente la qualité de qu'est-ce qu'on peut livrer, puis ça fait une différence.
Je pense que faire du théâtre, ça te force comme improvisateur à comme penser à des choses plus sérieusement que qui peuvent passer dans le beurre quand t'es un improvisateur. Comme je pense que si t'es juste en fait créé comme une mise en scène spontanément, t'es pas nécessairement en train de regarder différentes options comme au théâtre. T'es pas en train de faire comme, oh, on va te bloquer ici, on va te bloquer là. Hein, ça marche pas vraiment. Essayons ça comme ceci. T'as pas nécessairement l'opportunité de faire ça. T'aurais pu faire ça spontanément. Mais je pense que quand t'as l'expérience d'avoir fait du théâtre, tu peux appliquer cette réflexion-là beaucoup plus rapidement comme improvisateur. Faire comme, OK, toi, t'es debout là. Moi, je vais me mettre debout ici parce que ça crée ce contraste visuel ici. Puis je pense qu'aussi d'un point de vue personnage, je pense que être dans la peau d'un personnage pendant longtemps, puis le voir exister dans différentes situations. Puis c'est comme, OK, well, c'est ce personnage qui existe dans ce contexte ici. Puis c'est ce même personnage ici, mais qui parle à différentes sortes de personnes, qui ressort différents aspects. Je pense que ça te fait vraiment apprécier la diversité de comme un personnage, puis cette pluralité-là qui existe à l'intérieur d'un personnage. Je pense que ça peut t'aider à moins faire des personnages qui sont très 2D. En impro, c'est juste comme toi, t'es un vendeur de crème glacée, puis c'est ça que t'es. Tu peux avoir une famille, tu peux parler différemment à différents clients, basé sur comment bien que tu les connais. T'es-tu content là, t'es-tu pas content là? Comme, tu sais, toutes ces questions-là que tu mentionnais que ça serait bon de se poser. Tu te les poses, mais beaucoup plus rapidement parce que c'est un outil qui est plus pratiqué et exercé.
Oui, exactement.
Bon, ben, je pense que c'est une belle place à laisser notre conversation. Les gens peuvent y penser et peut-être se trouver des opportunités aussi, qui sait. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel ou improvisation nb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter X et Instagram et Improvisation NB sur Facebook et TikTok. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à Stéphane Bourgoin pour s'être prêté à l'exercice.
Merci.
Merci Isabelle.
Merci Michel.
Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation alors qu'on entame et poursuivons notre 10e saison de Catégorie Libre.
C'est quoi?
Super.
Woo! Mon laptop est en train de noise canceller, là. C'est quand il s'appelle un gin and tonic dessus pendant le zèbre, là, je suis...